Bonjour et bienvenue sur The Prudence Show, le podcast pétillant et sans langue de bois qui t'amène à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Prudence, coach mindset, experte en human design, entrepreneur depuis plusieurs années et au programme, je te propose des épisodes hauts en couleur. Qu'ils soient en solo ou à plusieurs, tu découvriras des sujets explosifs autour de l'authenticité, du human design, de l'argent, du business et beaucoup d'autres pour enfin t'autoriser à te créer une vie sur mesure et sans compromis. C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast duo avec une invitée de renom que vous avez déjà entendue sur le podcast et je suis ravie de la recevoir aujourd'hui de nouveau. Je me permets de réenregistrer l'introduction que j'avais faite quand on a lancé l'interview, tout simplement parce que j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans l'interview et j'estimais que vraiment, l'introduction, c'était pas la meilleure que j'avais faite. Donc, je me permets de la réenregistrer. Si jamais du coup vous entendez le décalage entre le moment où l'interview est lancée et l'audio actuel, c'est normal, c'est pour ça. Donc comme je vous disais, cette invitée, je l'ai déjà reçue et vous avez pu l'entendre dans le podcast numéro 123, comment réguler son système nerveux. On y avait abordé ensemble qu'est-ce qu'un persona, comment est-ce que se crée un persona, qu'est-ce que le système nerveux, comment est-ce qu'on le régule, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, etc. etc. Et alors, je reviens aujourd'hui du coup pour vous parler de notions qui je pense va énormément résonner avec vous puisqu'on va parler de la femme en entrepreneuriat, la notion de succès, la notion de réussite, la notion d'accomplissement, la notion de motivation. Comme je vous disais, vous allez voir qu'il est rempli de pépites, vraiment vous allez kiffer. Donc notre invitée du jour est Manifesting Generator 6-2 à autorité émotionnelle et je reçois aujourd'hui Manon. Hello Manon!
Coucou Prudence, coucou tout le monde, je suis ravie d'être là de nouveau, c'est trop cool!
Un bonheur pour moi aussi vraiment de te recevoir, de toute façon on se le disait en off un petit peu avant, enfin moi je suis ultra heureuse de pouvoir te recevoir et d'échanger avec toi, c'est toujours tellement enrichissant je trouve et j'espère vraiment que vous allez pouvoir en profiter également comme lors de ce premier podcast. Pour les personnes qui te découvrent avec cet épisode, est-ce que en quelques mots tu peux te représenter, nous dire qui tu es? Je sais aussi qu'il y a eu pas mal de changements pour toi justement ces derniers mois et depuis notre dernier podcast, donc j'ai hâte de t'entendre sur le sujet.
Oui, alors ça marche, je vais essayer de faire simple, clair et concis, ce qui n'est pas ma spécialité, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Manon, je vis pour l'instant dans le nord de la France, autour de Lille, et j'exerce en visio, j'accompagne des personnes, particulièrement des entrepreneurs, qui souhaitent se déconditionner des schémas, des croyances limitantes, des poids transgénérationnels qui les entravent dans la création d'une vie qui leur ressemble, dans la création d'un business qui est aligné pour eux. Je pense que c'est une phrase qui englobe bien ce que je fais. Donc, il y a une dimension à la fois bien-être, une dimension psychologique, une dimension somatique. On va travailler avec le corps. Et l'idée, c'est vraiment de se libérer en fait, de toutes ces injonctions, toutes les croyances limitantes qu'on a emmagasinées en nous, que ce soit par la société, que ce soit par la famille, que ce soit parce qu'on est une femme, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Exactement.
Donc, je me spécialise vraiment dans tout ce qui va être blessure émotionnelle, consciente ou inconsciente. Moi, je suis vraiment une spécialiste de l'inconscient.
Oui.
Du coup, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir être capable de créer une vie, un business qui nous ressemble, qui est aligné avec nous, qui est aligné avec nos valeurs et non pas quelque chose en fait qui continue de nous driver malgré nous. Donc légitimité, posture, impact, argent dont on avait beaucoup parlé dans le dernier podcast sont des thèmes que j'aborde régulièrement avec mes clients.
Oui, d'ailleurs, on a fait plusieurs sessions ensemble et c'est vrai que je dois dire que pour moi, ça a toujours été, c'est toujours un bonheur de travailler avec toi parce que tu as une approche, une façon de voir les choses, tu as aussi les outils qui viennent soutenir ton approche. Et franchement, moi, je peux que vous recommander, Manon, d'un point de vue mindset, alignement, reprogrammation du subconscient également. Enfin, vraiment, c'est une queen, donc j'adore.
Je te remercie. Et puis, c'est vrai que si je pouvais ajouter une dernière chose, c'est que je suis... j'ai pas la casquette de thérapeute et j'ai pas la casquette uniquement non plus de coach. Le travail que je fais aujourd'hui, il est assez particulier et j'ai envie de dire, seuls ceux qui ont déjà travaillé avec moi d'une façon ou d'une autre peuvent se dire... Ah oui, en fait, ça n'a rien à voir avec un coach, ça n'a rien à voir avec un thérapeute.
Mmh.
Donc, il y a vraiment plein d'outils que je mets ensemble et puis qui aujourd'hui créent aussi ma méthode pour pouvoir vous faire avancer, quoi.
Waouh, alors je trouve ça très intéressant que tu te dises ça, je me permets de rebondir. Alors c'était pas du tout prévu, mais je me dis, tu sais, il y a tellement de personnes avec qui j'échange qui ont du mal justement à mettre un mot sur ce qu'elles font, parce que justement, elles ont plein d'outils, elles ont plein de points de vue, de perception. Donc c'est pas tout à fait entre le coaching, mais c'est pas non plus du mentoring, c'est pas non plus, comme tu dis, de la thérapie. Où est-ce que toi, justement, tu trouves ton équilibre là-dedans? Et est-ce que peut-être il y a un mot avec lequel tu te définis, mais qui est peut-être pas, tu vois, aussi clair que coach, ou alors est-ce que, tu vois, il y a plein de mots qui te définissent? Comment tu vois ça, toi?
Ok, c'est une super question et finalement c'est une question qui arrive aussi après plusieurs mois d'interrogation, d'introspection personnelle et professionnelle, comme tu le sais. Donc moi j'ai toujours eu du mal à me définir par un mot ou alors je me définissais par un mot mais ça changeait très régulièrement. Je me suis définie comme coach au tout début, puis ça a été hypnothérapeute parce que j'ai commencé par me former d'abord à l'hypnose. Ensuite, j'ai un peu changé, puis il y a eu du mindset coach, et puis il y a eu du thérapeute, puis il y a eu de l'accompagnante. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses, reprogrammatrice du subconscient. Enfin, voilà, j'ai essayé un petit peu plein de choses sans jamais me dire ça me correspond vraiment. Et je me suis dit, en fait, il y a tellement d'outils différents que j'utilise. Et les profils que j'accompagne sont tellement variés que pour certains, ça va être vraiment du coaching. Pour d'autres, ça va être vraiment plus du mentoring. Pour d'autres, ça va être vraiment de la thérapie. J'ai quand même travaillé beaucoup sur des traumas familiaux, sur voilà, des choses qui sont très personnelles et qui ont une répercussion dans le professionnel. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, la finalité de tout ça, c'est que j'ai peut-être pas besoin d'étiquette, mais ce que je peux dire, c'est j'accompagne les personnes à faire quoi? Et donc, je les accompagne à se déconditionner, à se libérer des schémas répétitifs. En ce sens, ça déjà, ça me convient bien comme description. Et si vraiment je devais mettre un mot un peu plus précis, je ne l'aurais pas encore identifié, mais ce ne serait pas un nom, ce serait plutôt un verbe. Et ce serait vraiment le fait de libérer. Je pense que c'est vraiment ça qui définit le mieux, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais et ce à quoi j'ai envie de contribuer, en fait.
J'adore ta réflexion. J'adore ta réflexion et j'espère aussi, du coup, chères auditrices, que ça va résonner avec vous parce que, ouais, comme je te disais, c'est souvent un sujet, tu vois, qui revient beaucoup. Et puis, j'ai une grande communauté de multipotentiels aussi et donc ça revient toujours la question de ben, qu'est-ce que je mets, etc. Et j'aime du coup ce point de vue où, comme tu dis, tu peux utiliser ce que tu vas aider la personne à faire, la problématique que tu vas l'aider à résoudre, le désir que tu vas l'aider justement à obtenir, à accomplir. Et puis peut-être aussi en un mot, un verbe, exactement, qu'est-ce que,
Carrément, carrément.
ouais, comment est-ce que tu vas l'aider? Donc ça, je trouve ça
En fait,
super. Je trouve,
il n'y a pas besoin de choisir parce que je trouve que personnellement, choisir, ça va être aussi prendre le risque de s'enfermer. Et on va toujours, moi, c'était vraiment ça, c'est je trouvais un mot et puis c'est un autre et puis un autre et puis un autre. Et donc, à chaque fois que je changeais, je me disais, mais je suis pas stable, c'est inconstant, même s'il y a cette notion aussi de j'évolue, il y avait quand même ce truc où je me disais, j'ai pas de posture ou d'assise qui est assez professionnelle, assez stable. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça puisque c'était limitant la façon dont j'essayais de me définir. Ça ne me correspondait pas. Le côté multipotentiel, forcément, me parle beaucoup. Et c'est justement cette liberté, cette souplesse qui m'attirait dans le fait de faire ce que je fais aujourd'hui et de pouvoir changer de projet, de modèle, d'offre, de business model, etc. Donc, aux personnes qui nous écoutent, c'est vous n'avez pas besoin de choisir un titre parce que les personnes ne vont pas vous choisir par rapport au titre, elles vont vous choisir par rapport à votre énergie, par rapport à la qualité de vos offres et par rapport à ce que vous proposez comme résultat. Que vous vous appeliez chaman, thérapeute, psy, conseiller, advisor, ou je ne sais pas trop quoi, ce sera la même chose. Mais en plus, le risque parfois à se définir par un mot et une étiquette, ça va être que les personnes qui pourraient être vos clients potentiels vont projeter des croyances sur vous qui vont faire en sorte qu'il y aura déjà en fait un conditionnement qui va s'appliquer dans la relation d'aide, dans la prestation de service que vous allez faire. Si vous vous définissez comme coach et que vous commencez à aller chercher plus dans un aspect perso, thérapie, avec de l'hypnose, etc., peut-être que certaines personnes qui ne pensaient pas que les coachs faisaient ça vont se dire waouh, mais c'est pas ce pourquoi j'ai payé. Donc finalement, ça peut être très intéressant de ne pas se définir par un titre, mais plutôt de se définir par ce qu'on fait.
Alors attends, là je suis aussi obligée de rebondir du coup parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi, cette notion d'étiquette, tu sais, ce côté, ben oui, mais je veux pas m'enfermer dans une case ou dans une étiquette. J'aimerais savoir, toi, quel est ton rapport justement aux étiquettes, aux cases? Je te pose la question parce que moi, à l'inverse, je t'avoue que je me sens extrêmement bien dedans parce que je me dis c'est une façon pour les gens de ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas, en fait. Et donc, du coup, je suis vachement à l'aise avec ça. Et au contraire, tu vois, j'aime bien définir qui je suis et qui je ne suis pas. Et donc, du coup, voilà, je voulais avoir, toi, ton point de vue sur cette notion d'étiquette, le fait de se sentir enfermé, peut-être aussi derrière une étiquette. Comment tu vois ça?
Oui, carrément. Alors, ça va être que ma perspective, bien sûr, mais
Ouais.
je sais que moi, personnellement, une étiquette, je trouve ça enfermant parce que c'est quelque chose qui est figé. Et quand c'est figé, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mouvement. Et donc, s'il ne peut pas y avoir de mouvement, il ne peut pas y avoir d'évolution. Bien sûr, ça, ce n'est qu'en théorie, parce que dans la
Ouais.
pratique, on évolue, on change. Mais c'est plus difficile changer de posture ou de modèle d'offre ou de service. Si on se définit comme hypnothérapeute et qu'on veut passer à du coaching, parce qu'on se dit oui, je dois tout recommencer de zéro, changer, mes clients ne me suivront plus, etc. Par contre, si on a mis en avant la promesse qu'on veut apporter, la promesse de transformation, il y a des chances que ce soit plus souple. Donc, en ce sens, je trouve que c'est plutôt positif. Et je pense aussi que l'étiquette, finalement, ou le titre ou le statut qu'on va s'attribuer, ou qu'on va nous attribuer parfois, ça va nous rassurer. Ça nous crée un cocon, ça nous crée des limites, et c'est pas forcément négatif, mais on se dit, OK, c'est plus facile, en fait, si je me définis comme énergéticienne, par exemple, de me dire, ça, je sais que j'accompagne, et ça, ben non, j'accompagne pas. Et pour les personnes aussi, ce sera plus clair de savoir éventuellement à quoi s'attendre, malgré le fait qu'il peut y avoir des projections. Donc, c'est toujours voilà, une question de qu'est-ce qui nous convient à nous. Je sais qu'il y en a qui sont très bien avec le fait d'avoir un statut, etc. Mais d'autres, pas du tout. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a une réponse qui est juste pour nous. Et je terminerai sur le fait aussi de dire que pour moi, l'étiquette, elle aura tendance à avoir une perméabilité sur la façon dont je m'identifie, la façon dont je me présente. Donc, on est vraiment sur une strate identitaire, qui je suis. Selon moi, pour moi, c'est quelque chose qui peut être problématique parce que je suis une femme, je suis une fille de quelqu'un, je suis l'amie de quelqu'un, je suis une cousine, je suis une machin. Et du coup, le fait de caler ce que je fais dans ce que je suis peut être problématique quand je vais essayer de faire évoluer mon entreprise parce qu'après, on va lier en fait notre valeur personnelle à notre valeur entrepreneuriale. D'où le fait que je préfère définir par mes résultats, les résultats que j'apporte à mes clients, ou un verbe, parce qu'on reste dans le faire et on s'éloigne de l'être.
Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, tu vois, alors déjà, moi, je trouve que là, tu as tout dit, moi, c'est vraiment la notion de sécurité. Tu vois, c'est sécurisant pour moi déjà d'avoir l'étiquette. Ça m'apporte, comme tu disais, ce cocon. Et également, bah, je te rejoins sur ce que tu dis à la fin. C'est vrai que surtout que. Je remarque beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas au sein de ma communauté, sont, tu sais, en personal brand. Donc, c'est, ont pas créé, tu vois, genre l'identité de marque, mais vraiment ont une marque qui est reliée à leur identité. Et c'est vrai que, comme tu dis, par contre, on peut avoir vite tendance à s'identifier à notre travail, à s'identifier du coup à notre marque, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière entre les deux, du coup.
Carrément, carrément. Et puis, il y a vraiment cette notion de, OK, si je suis coach, experte en argent, par exemple, money mindset, et que je fais un lancement qui ne fonctionne pas trop, ou pas du tout, ce qui peut totalement arriver, et c'est OK, en fait, je vais avoir souvent tendance à me dire, ah bah, j'ai merdé quelque part, j'ai fait une erreur, je suis nulle. Et du coup, on rentre dans la comparaison, dans la confirmation de croyances limitantes, etc. Alors que si on. C'est intéressant, les personnes aussi qui ont une société et qui, du coup, donnent déjà, c'est une société, donc c'est une entité en termes d'énergie qui est à part de nous. On n'est pas en EI, en entreprise individuelle. Mais en plus, des fois, il y a des noms qui sont différents dans la société. La société, c'est pas forcément EURL. Bon, moi, c'est mon nom et mon prénom, mais il peut y avoir EURL avec un autre nom derrière, ou SAS, ou SARL. Et du coup, le fait de se dire, bah, c'est pas moi, c'est l'entreprise. Je ne sais pas, l'entreprise découverte, par exemple, le nom, ce serait découverte. Eh bien, ce n'est pas pareil, en fait, la façon dont on va aborder les choses. Il va y avoir davantage de recul, davantage de perspective. Et en fait, Tout ça, c'est des réflexions qui sont intéressantes et qui vont
Ouais.
faire du lien avec le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que
Oui.
tout ça, c'est des éléments qui, d'une certaine façon et à un certain degré selon les personnes, vont contribuer à notre échelle de succès et de
Ouais.
réussite entrepreneuriale.
Exactement. Bon, alors, on va se lancer du coup sur la thématique du succès, mais pareil, là, je rebondis énormément, enfin, je raisonne et je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, tu vois, sur cette fin d'année dernière, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'étais un peu trop identifiée justement à mon entreprise, et des fois, ben, quand il n'y avait pas les résultats ou quoi, en fait, je me disais, mais c'est moi, en fait, j'ai échoué, j'ai pas fait les bonnes choses, etc. Et je sais que depuis ce début d'année, j'essaye vraiment, tu vois, genre de prendre du recul et de parler au nom de l'entreprise en disant, ah bah là, c'est l'entreprise, par exemple, qui développe son chiffre d'affaires, c'est l'entreprise qui a nanana. Et comme ça, moi, je sais que ça me permet de mettre, ouais, cet espace entre, ben, il y a moi, ok, c'est moi qui est à la tête de l'entreprise, puis il y a l'entreprise qui, elle, justement, alors j'allais utiliser le mot performe, mais il y a l'entreprise qui, elle, amène
Se
les
développe.
résultats ou pas, voilà, qui se développe ou pas. Donc, je trouve que c'est en effet une réflexion très intéressante. Et donc, est-ce que pour lancer finalement ce sujet, tu peux nous parler un peu de, pour toi, c'est quoi le succès? La réussite, le succès, que ce soit au quotidien ou en entreprise, ou les deux, bien sûr.
Ouais, ça c'est question, vaste question. Et en fait, je dirais déjà pour commencer que ma vision du succès, elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'avant, on parlait alors déjà, il y a succès et réussite, et pour moi, ce n'est pas la même chose.
Oui.
C'est-à-dire que la réussite, c'est quelque chose que je vivais comme très personnel, alors dans le cadre pro, mais
Ouais.
c'est grâce à moi, c'est moi qui mets en place des actions et je réussis, je performe. Le succès, c'était plus quelque chose comme l'aboutissement de la réussite et c'est la reconnaissance par les autres. Là, j'ai vraiment l'image de t'es sur le tapis rouge avec des projecteurs, quoi. Ça, c'est le succès. Donc, il y a cette notion de célébrité, de gloire, de je contrôle pas et je décide pas non plus, ce qui est assez intéressant. Et du coup, dans ces notions-là, moi, j'étais plus vraiment dans le côté la réussite, c'est quelque chose que je vis intérieurement. Pour la définir, ce serait plus un état en fait émotionnel. Je ne peux pas te dire la réussite, c'est de faire tant de CA ou c'est de partir à telle destination ou de réaliser un ultra-marathon dans ma vie. La réussite, c'est vraiment une sensation qui, pour moi, va être quelque chose qui va s'ouvrir au niveau du plexus. Ça va pétiller, ça va être chaud, c'est comme de l'énergie, ça va me donner envie de sourire, je vais me sentir légère et je vais me sentir grandir. Par contre, quand tu me parles du succès, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est très extérieur. Et donc là, je vais, mais c'est mon système de croyance hein, qui s'active, je vais me dire, ah ben, ça va être générer un certain CA, ça va être avoir autant de followers, ça va être faire ci, faire ça. Et là, on va plus être dans les accomplissements matériels, concrets, extérieurs à moi.
Ouais, j'ai l'impression que tu vois, la façon dont tu le décris, alors déjà, je résonne assez au niveau de ce que tu dis sur la réussite, plus quelque chose de personnel, tu sais, genre que tu
Intérieur.
ressens. Et le succès, moi, c'est pareil, tu vois, genre, alors je le visualise pas sur les tapis rouges, mais tu sais, comme un truc où tu te dis. Waouh, je sais pas, genre j'ai grimpé une montagne et les gens peuvent voir que j'ai grimpé une montagne. Enfin, j'ai
Ouais.
l'impression du coup que
Les
le
gens voient, il y a
succès,
cette
voilà,
consécration.
c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que le succès, c'est vachement lié à ce que les gens perçoivent de nous, en fait. Et peut-être aussi cette notion de projection que eux, ils aimeraient avoir. Et donc, ils se disent, waouh, cette personne, elle est successful.
Exactement. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs que tu le dises en anglais parce qu'il y a Léa, ma coach, si tu nous écoutes, on parlait de ça, elle nous parlait de ça justement il y a quelques temps. Il y a cette notion de, en français, on dit avoir du succès, mais en anglais, on dit to be successful. Et c'est hyper intéressant parce que cette notion d'avoir versus cette notion d'être, elle est hyper importante dans la façon dont on va appréhender ces notions de réussite et de succès. Parce que si c'est quelque chose que je peux avoir du succès, ça sous-entend que aussi ça peut disparaître. Et on peut me le
Ouais, tu peux
reprendre,
le
par
perdre.
exemple. On peut le perdre, exactement. Mais par contre, ce que je suis, on peut faire évoluer, on peut changer ce que je suis. Mais c'est moi qui décide. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir un impact sur qui je suis. Et donc, il y a vraiment cette notion de contrôle, mais dans le sens plutôt positif, en fait.
Ouais, complètement. Bah ça, c'est vrai que je trouve que c'est une distinction qui est ultra intéressante. Et alors, tu sais, j'avais cherché justement une, on va dire un peu quel était l'équivalent français, parce que j'ai tendance à l'utiliser en anglais justement, parce que je trouve que c'est cool, tu vois, il y a le mot succès et ça fait successful, tu vois. Le mot qui s'en rapproche le plus, c'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir accompli, du coup.
Ok, et là tu vois, en
Ouais.
français c'est se sentir. Donc on
Ouais.
retourne sur l'état d'être. Et du coup, premier tips pour ceux qui nous écoutent,
Oui.
moi je vous inviterais vraiment à déjà définir, ok, le succès c'est quoi pour vous, la réussite c'est quoi pour vous, pour
Ouais.
bien déjà distinguer les deux. Parce que moi la première fois que j'ai fait cet exercice sur la réussite, c'était ok, j'avais pas de problème. Mais par contre, du coup, le succès, je le voyais pas hyper positivement parce qu'il y avait vraiment ce truc de on me l'impose limite. Je n'ai pas de contrôle dessus, donc j'aimais pas ça. Donc forcément, s'il y a une partie de moi qui refuse ou qui veut éloigner le succès dans mes actions, il va toujours y avoir cette notion aussi de non, non, mais j'ai pas envie, je vais rester à jouer petit, tu vois. Donc ça peut être intéressant déjà de définir les deux en mots, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il n'y a pas de bonne réponse. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur comme état émotionnel? Parce
Ouais.
que comme ça va vous permettre de vous détacher du matériel, de je dois faire ci, je dois faire ça pour pouvoir me sentir de telle façon. Si vous commencez à le ressentir en vous disant, ça veut, c'est comment pour moi quand je me sens accompli, quand je I am
Ouais.
successful, vous allez envoyer le message à votre cerveau que vous avez déjà la capacité de vous sentir comme vous aimeriez vous sentir et que
Ouais.
donc le fait d'atteindre tel objectif de CA ou de vendre tant de contrats n'était qu'un prétexte où vous reportiez une attente et un enjeu émotionnel, mais vous n'avez plus besoin de ça pour pouvoir vous sentir comme vous avez envie de vous sentir. Et c'est là, en fait, où vous reprenez vraiment le contrôle de vos émotions, de même votre vie, en fait, finalement.
Ok, alors là, moi, ça me fait un champ de possibilités de questions que j'ai envie de te poser sur le sujet. Donc, je vais y aller avec la première qui est, comme tu dis, là, il y a ce lien entre le fait d'avoir quelque chose pour avoir ce sentiment de d'être vu, peut-être comme une personne successful ou pour avoir ce sentiment qu'on l'est. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu penses qu'on attache justement ces sentiments-là à quelque chose d'extérieur? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à juste à se dire, OK, bah, en fait, je pourrais très bien être. Alors, je prends quelque chose d'extrême, tu vois, mais je pourrais très bien justement être dans la rue ou être en prison, être dans un endroit où de l'extérieur, vraiment, tu as l'impression que c'est la situation, elle est horrible, et pourtant, à l'intérieur de moi, me sentir accompli, tu vois?
Ok, cette question, elle est juste incroyable. On ne me l'avait jamais posée et j'adore. Elle est géniale, cette question. Alors, du coup, la première chose, c'est qu'en effet, tu sais, il y a. Moi, j'aime beaucoup regarder des documentaires, des
Ouais.
reportages, et souvent, on voit. Alors, pareil, ça va paraître un petit peu cliché, mais on voit des personnes qui vivent dans des pays plutôt défavorisés,
Ouais.
ou qui vont vivre de façon très ascétique, et qui n'ont pas grand-chose, pas beaucoup d'argent, pas très peu de biens matériels. Mais qui sont hyper, hyper heureux.
Ouais,
D'ailleurs,
exactement.
le pays le plus heureux du monde, hein, ils ont je sais, le Gross Happiness Product, je crois, c'est le
Ouais.
Bhoutan en Asie,
Oui.
où finalement, il y a peu d'objets, de stimulation, de choses comme ça, et les gens sont quand même heureux. Donc ça, c'est déjà super bien. Pourquoi? Parce que c'est, je peux me sentir heureux, accompli, successful, même si je n'ai pas une liste, des critères matériels que je remplis parce que j'ai pas externalisé ça sur quelque chose d'autre. Donc ça veut dire qu'on a cette capacité déjà. Ça, c'est cool.
Ouais.
La deuxième chose qui est ta question, c'est pourquoi on a tendance à externaliser
Ouais.
ça sur d'autres choses, le fait de ressentir quelque chose en essayant d'atteindre justement un objectif.
Oui.
La première réponse qui me viendrait de te dire, c'est déjà parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Et du coup, on n'a jamais appris à ressentir, à convoquer des états émotionnels. Mais en fait, en réalité, le fait de on pourrait très bien se dire, OK, là, je suis assise à mon bureau, en face de mon
Ouais.
ordinateur, on est en podcast, et j'ai envie de me sentir détendue et je sais pas, assurée. Eh ben, je peux prendre en quelques secondes. Ça prend un petit peu d'entraînement au début, mais je peux prendre en quelques secondes, voilà, l'idée de me dire, OK, ça fait comment quand je me sens détendue et assurée? Et il y a des choses qui vont venir, des images, ma respiration, elle se modifie, ma posture va se modifier. Je parle un peu plus lentement parce que du coup, je suis détendue. Mais je ne le fais pas. Là, je l'analyse parce que je me vois faire. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé. Ça se fait tout seul. Donc, on a cette capacité à convoquer des états émotionnels dont on a besoin. Ce qui permet aussi de m'amener sur la notion de on a tendance à se déresponsabiliser de nos émotions. Quand on regarde la base de la CNV, la communication non violente, c'est les personnes qui ont, on a tous très souvent tendance à dire tu m'agaces, tu m'énerves, c'est à cause de toi. Sauf que si on décompose cette phrase, tu m'agaces, ça signifie que la personne a le pouvoir de causer de la colère chez nous. Sous-entendu, la personne savait à l'avance qu'en disant ça, ça allait nous trigger. Mais en réalité, c'est totalement faux, puisque je pourrais dire à quelqu'un qui me demande est-ce que tu aimes, je sais pas, ma nouvelle robe, et il y a une personne qui lui dit non, j'aime pas. Elle pourrait répondre bon, bah, d'accord, merci ton honnêteté, mais moi j'aime bien, donc en fait je m'en fiche. Une autre personne pourrait dire bah oui, moi non, j'aime pas. Mais elle va répondre mais pourquoi t'aimes pas? Mais franchement, pourquoi tu me dis ça? C'est pas cool. Et de la même façon, on pourrait lui dire non, j'aime pas, et elle pourrait répondre de façon triste, hyper blessée. Genre ah bon, mais je croyais que ça te plairait, mais. Bon, bah ok, je vais les changer. Tout ça pour dire que la façon dont on va réagir émotionnellement à quelque chose nous appartient toujours. Elle nous appartient toujours, mais elle est conditionnée par notre système de croyances, par les poids transgénérationnels qu'on porte en nous, par les conditionnements sociétaux dont on a hérité, par notre statut social, par le pays dans lequel on a vécu, par l'histoire aussi qui concerne le pays dans lequel on a vécu. Donc, en fait, toutes ces informations-là vont contribuer à influencer nos réactions émotionnelles. Et donc, forcément, on a tendance à continuer d'externaliser ça sur nos objectifs, puisqu'on l'a pas, on n'a jamais appris encore une fois. Est-ce que c'est assez clair?
Je trouve que c'est assez clair. Et alors, ok, je vais essayer de rebondir du coup sur la prochaine question que j'ai envie de te poser, qui est, je veux absolument qu'on puisse parler du coup de la reconnaissance. Parce que donc, il y a ce côté, tu vois, genre de, ok, j'externalise sur, ok, ça va m'apporter telle émotion. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'en achetant ça, en partant dans ce nouveau voyage, en achetant cette nouvelle télé, ça va m'apporter quelque chose. Et je trouve aussi que dans la notion de succès et réussite, il y a cette notion d'exister à travers les autres, à travers aussi la reconnaissance et donc ce sentiment aussi de, ok, si j'ai par exemple cette nouvelle télé, oh, je vais être reconnue par les autres et ils vont voir que du coup, pourquoi est-ce que c'est si important pour l'être humain de se sentir reconnu par les autres? Et pareil, pourquoi est-ce que c'est peut-être difficile de se reconnaître soi-même?
Waouh, vaste question. On a combien de temps?
On a du temps, vas-y.
Ok, la reconnaissance. Alors déjà, c'est intéressant de savoir ce qu'on peut entendre par la reconnaissance. Bon, là, on va partir du principe que c'est le fait d'être vu et pleinement accepté par l'autre. Accepté pour qui je suis. Le truc, c'est que la reconnaissance, c'est un élément assez essentiel de la théorie de l'attachement dont on a parlé dans le précédent podcast, qui est ce qui fait que nous sommes humains, que nous interagissons avec les autres, que nous sommes en vie et que nous nous développons. Et en fait, du coup, il y a vraiment une notion du fait que quand on regarde en fait les générations précédentes, bon, nos parents, alors moi j'ai 30 ans, mais du coup, si on regarde juste ne serait-ce qu'à nos parents, ils ont vécu dans une société qui était très capitaliste, très industrialisée, vraiment des gros changements au niveau du système économique, du système de consommation. Tu regardes la génération encore d'avant, nos grands-parents qui ont connu les guerres mondiales. Bon, déjà, rien qu'en remontant à ça, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses pas très cool qui ont été vécues et donc qui ont été engrammées, qui se sont transmises dans nos gènes. Ce qui fait aussi que quand tu regardes dans les modèles d'éducation à l'époque, il n'y a encore pas si longtemps que ça, malheureusement, c'était normal de punir les enfants sans expliquer pourquoi, de leur dire tu parles pas à table, de leur dire tu fais ci, tu fais ça, de leur donner la fessée. Tout ça pour dire que on a grandi jusqu'à très récemment où il commençait à y avoir un peu plus de Montessori, d'éducation positive, etc. Mais on a grandi avec des carcans et des injonctions parentales qui font que l'enfant n'a jamais vraiment été pleinement reconnu en tant que personne à part entière. L'enfant a
Mmh.
quasi, alors je dis toujours, prenez tout ça avec des pincettes, mais l'enfant, pour la plupart du temps, a été considéré comme un être inférieur qui doit suivre les injonctions parentales. Et ça, c'est problématique, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on a gardé à l'intérieur de nous jusqu'à notre âge adulte. Ce sentiment de non-reconnaissance de qui je suis. Et je vais donner un exemple plus concret. On peut avoir eu des parents très aimants et avec qui on s'entend très, très bien. On se dit, bah non, pas eu de problème, etc. Ou pas de gros problèmes, en tout cas. Mais pour autant, avoir reçu un amour conditionnel. Un amour conditionnel, c'est je t'aime si tu fais ce que j'attends de toi. Et c'est par exemple si un enfant, je sais pas, un enfant de 5 ans arrive et dit ah bah papa, maman, vous êtes en train de manger une glace au chocolat, est-ce que je peux en avoir moi aussi? Et qu'il y a un des parents qui va lui dire non, pas pour toi, toi t'es petit, c'est pas pour les enfants, va dans ta chambre. Et ben un événement comme ça, alors là, je schématise, mais un événement comme ça peut envoyer le message à l'enfant que lui, il est inférieur à ses parents, qu'il est moins important que ses parents, que ses besoins sont moins importants que celui des autres. Et on voit bien toutes les répercussions que ça peut avoir. Et donc, cette blessure émotionnelle qui va se cristalliser à ce moment-là, parce que mon exemple peut paraître très anodin, mais quand on a 4-5 ans et que nos parents nous refusent la glace au chocolat en nous disant d'aller dans la chambre alors que nous, on était hyper contents et que du coup, on part en pleurant, pour le système émotionnel, c'est violent. C'est vraiment violent. Alors avec le recul, on a 30, 40, 50 ans, on minimise. Mais c'est bien ça le problème. C'est qu'on minimise des petits événements comme ça parce que, en fait, on dit, oh, c'était pas si important. Mais c'est ces éléments-là qui vont conditionner, en fait, la personne que je suis. Et la reconnaissance qui a manqué quand j'avais 4-5 ans et qu'on m'a pas donné ma glace au chocolat, c'est une information qui va tourner en boucle dans mon système et qui va essayer de continuellement récupérer cette reconnaissance que je considère qu'on m'a prise. Et donc, du coup, toutes mes actions, ou la plupart de mes actions, dans certains contextes, vont être conditionnées par ce besoin de reconnaissance. Et c'est ce qui va amener, par exemple, dans l'entrepreneuriat, certaines personnes, et je ne dis pas toutes, à vouloir atteindre les 100 000 euros de CA ou les 1 million d'euros de CA. C'est ce qui va mener certaines personnes à vouloir avoir X nombre de followers, parce qu'on ne va pas se mentir, derrière la visibilité, derrière le fait de construire une communauté, il y a aussi ce besoin de reconnaissance. Alors, je ne dis pas que tout le monde qui cherche à grandir son audience ou à augmenter son CA a une blessure de reconnaissance, mais je pense qu'on peut considérer, de par mon exemple, que c'est quand même assez répandu à certains degrés.
Du coup, ça m'amène justement à cette question qui est pour toi, comme tu le dis, il y a quand même pas mal de projections où on se dit, ah waouh, quand j'aurai atteint peut-être tel nombre d'abonnés, quand j'aurai tel chiffre d'affaires, etc., je serai enfin vue ou enfin reconnue, j'aurai enfin le succès justement que je mérite d'avoir. Pour toi, comment est-ce qu'on dissocie quelque chose que l'on veut profondément et quelque chose qui peut-être émane d'une blessure?
Alors ça, c'est the question. C'est vraiment the question parce qu'en effet, je la trouve géniale ta question parce que c'est quelque chose que je me suis souvent posé justement. Comment être sûr? Parce que parfois, on pense être sûr que c'est ça qu'on veut et 6 mois après, on a fait quelques séances de thérapie ou autre, on se dit, oh, mince, en fait, c'était l'expression d'une des blessures. Alors, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est, je pense sincèrement que en se connectant davantage à notre corps, certains vont dire intuition, moi je vais parler là pour le coup vraiment de corps parce qu'il y a une sensation une notion pardon, de ressenti, on va avoir une première réponse. C'est-à-dire que en posant, ok, je veux, je sais pas, 10 000 followers Insta, on a déjà, si on est honnête vraiment avec soi, on sait déjà si ça vient d'une blessure ou pas. On sait déjà. Il y a cette notion de quelque chose en fait à l'intérieur qui, ok, c'est j'en ai vraiment envie, on va voir soit par exemple une image de nous qui essaie d'obtenir ce truc-là, ou on va avoir une image de nous d'un enfant intérieur par exemple qui est en souffrance, qui est blessé et qui du coup essaie de poursuivre
Essaye
ça.
de
Voilà, il va y avoir des informations, des images qui vont venir en tête, ou des pensées, ou des souvenirs, ou des sensations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'idée n'est pas nécessairement d'enlever, de guérir toutes les parts émotionnelles blessées pour pouvoir ensuite vraiment avancer.
Ouais, un
Non.
piège dans lequel je suis beaucoup tombée, moi. Hein, tu vois, j'étais vraiment là en mode non, mais il faut encore que je fasse quelque chose, faut encore que je fasse quelque chose. Enfin,
C'est ça.
tu n'as jamais fini.
C'est ça en fait, parce que finalement, je pense que travailler sur soi est un travail de toute une vie. Encore une fois, à des degrés différents. Hein. Quand on commence, il y a toujours plein de choses qui remontent, et puis au fur et à mesure, c'est un peu plus léger. Mais on n'a pas besoin d'enlever tous les masques, tous les carcans, de reprogrammer toutes les croyances ou je ne sais quoi pour pouvoir avancer dans notre mission de vie, pour incarner notre âme ou je ne sais quoi. Non. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'en fait, le truc, c'est que l'idée, c'est juste de savoir avec quelle intention on est, depuis quel espace on agit au moment présent. C'est juste ça. Et si on se rend compte qu'au moment présent, je poursuis les 10 000 followers parce que j'ai envie de me sentir visible, aimer, développer une communauté qui va, oui, m'apporter de la reconnaissance parce que j'en ai pas eu de mon père. Ah, ok, il y a peut-être un petit truc là. Donc je vais aller voir ce petit truc-là
Ouais.
et je vais voir comment ça modifie ma perception de mon objectif. Peut-être que mon objectif d'avoir 10 000 followers, il sera plus là et ce sera autre chose. Et c'est ok. Mais peut-être que mon objectif, il sera toujours là. Simplement, il y aura plus un moteur, on va dire, j'ai pas envie de dire malsain, mais un moteur blessé ou biaisé. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ça, c'est très
Ouais.
subtil comme notion, parce qu'on peut continuer de poursuivre les mêmes objectifs. Ce qui change, c'est simplement l'espace depuis lequel je me positionne. Et c'est ça qui est important.
Ok, alors du coup, moi là, ça me fait rebondir sur quelque chose qu'on a expérimenté avec une amie récemment. Et donc, je me dis, écoute, j'en profite pour te poser la question. De ce que j'ai pu observer personnellement de plein de personnes, tu vois, qui ont atteint leur succès à leur façon, mine de rien, quand tu regardes justement leur histoire, moi, la conclusion que j'en ai tirée, et c'est que ma conclusion, tu me diras
Bien
ce
sûr.
que toi t'en penses aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une personne blessée. Une personne qui cherche la reconnaissance, une personne qui veut prouver sa valeur. Je trouve que les personnes qui sont dans cet état-là, putain, mais elles peuvent déplacer des montagnes, elles sont prêtes à tout, en fait, et à mettre toutes les actions en place pour justement atteindre ce qu'elles veulent, tu vois. Et donc, des fois, tu te retrouves avec des personnes qui, toute leur vie, ont cherché à prouver leur valeur, mais voilà, qui ont monté des trucs vraiment incroyables. Et moi, plus j'avance, tu sais, et plus justement je chemine sur mes blessures, plus il y a plein de trucs où je me dis, en fait, ah bah non, bah en fait, je suis plus tant motivée pour ça, j'ai plus vraiment envie de ça. Et tu vois, moi, la question se pose de, bah d'un côté, les blessures, c'est un moteur fantastique. Et quand du coup, tu as plus tes blessures qui sont là pour faire un moteur, bah en fait, tu te reposes sur quoi? Tu te motives comment? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est génial comme question. Je trouve ça vraiment là, tu t'es surpassé.
Merci.
C'est des questions que j'entends jamais en fait. Donc, je les trouve vraiment pertinentes pour apporter quelque chose de nouveau à tes auditeurs. Ok. Du coup, dans ce que tu me demandes, la première chose que je commencerai par te dire, c'est que oui, les blessures peuvent être, je ne dis pas qu'elles sont, mais elles peuvent être dans certaines conditions, un fabuleux moteur d'expansion. C'est ce qu'on appelle le processus de sublimation. Je vais utiliser ma blessure pour me permettre de transcender les difficultés et d'accomplir les objectifs que j'ai en tête, et même plus encore, et parfois à une vitesse phénoménale. Ça va être, pour donner un exemple du processus de sublimation, une femme qui a été victime d'abus et de violences, qui va se reconvertir dans le fait de défendre les femmes qui ont été victimes elles-mêmes de violences. Okay? Ça, c'est un processus de sublimation. J'utilise ce que j'ai vécu et ma blessure comme moteur. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que le processus de sublimation, sinon ça se verrait en fait. Il y a d'autres processus. Par exemple, il peut y avoir le processus de répétition. Là, c'est ce qu'on va voir dans les schémas. Pas que transgénérationnel, mais des schémas répétitifs. Alors je vais prendre quelque chose. Oui, bon, on va prendre ça. Ma grand-mère a perdu son aîné, ma mère a perdu son aîné, et moi, je tombe enceinte et je perds mon aîné. On est dans des schémas répétitifs. Et puis, il va y avoir des schémas, au contraire, qui vont en opposition, en rébellion. c'est les personnes qui disent, je dis ça parce que j'ai beaucoup eu cet exemple récemment dans mes clientes, je ne veux pas finir comme ma mère, je ne veux pas être comme ma mère. OK, on va prendre cet exemple-là que j'adore en fait parce qu'il se démonte en une minute, c'est-à-dire que, OK, c'est comme si tu avais une liste où ta mère, elle est comme ça, elle a tous ces critères-là, toutes ces décisions-là. Et donc toi, ton inconscient et ton conscient, ils se disent, je vais faire tout l'inverse. Comme ça, je ne serai pas comme ma mère. Le truc, c'est qu'en faisant ça, en pensant s'éloigner de ce qui nous cause, entre guillemets, problème, notre point de référence, c'est qui? Bah, c'est pas nous, c'est notre mère. Donc du coup, elle continue d'avoir une emprise sur notre vie. Donc voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs processus par rapport à la blessure. Donc la sublimation, c'est chouette, entre guillemets, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent arriver. Donc, ce n'est pas tout le temps positif de ne pas agir sur une blessure. La deuxième chose, c'est que la sublimation peut entraîner, encore une fois, je modère mes propos, mais elle peut entraîner d'énormes coûts à payer, beaucoup plus que si on avait déjà agi dessus.
Principalement
On
la
peut avoir
santé.
peur de perdre, voilà, on peut avoir peur de perdre notre motivation, notre intensité, notre drive si on agit sur la blessure, et c'est possible. Mais en même temps, si on n'agit pas, il peut y avoir d'énormes, pas conséquences, mais vraiment le prix à payer, du sacrifice en fait. C'est
Oui, complètement.
par exemple une séparation ou un déménagement où il va y avoir plein de choses qui vont se passer, ou des problèmes de santé, ou ce genre de choses, vraiment des épreuves en fait, qui vont faire que ça va être compliqué, ça peut être dur. Encore une fois, ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et le fait est aussi que c'est intéressant de se poser la question d'un point de vue plus méta, vu que tu me parlais de ça. Est-ce que tu me parlais du fait que tu avais perdu ta motivation et ton envie, ou en tout cas que ça a diminué parfois? Et du coup,
Bah,
tu
tu
dis, bah,
vois, en
il
fait,
va me rester quoi après?
quand je fais la rétrospective, tu sais, quand j'ai commencé justement mon entreprise il y a 3-4 ans maintenant, tu sais, j'étais encore dans cette phase où je me disais, putain, mais moi, je me suis sentie vraiment, tu sais, incomprise, j'avais le sentiment que je ne pouvais pas être moi, enfin, tu vois, par rapport à ce que j'avais vécu. Et en fait, là, sur ces dernières années, donc, pardon, c'est ce qui avait vraiment motivé mon entreprise en mode, OK, bah, je veux que les gens se sentent vus, qu'ils se sentent reconnus, qu'ils se sentent compris, etc. Et puis, en fait, bah, moi, plus j'ai avancé, plus en fait je me suis rendu compte que c'était plus du tout une problématique. Alors ça le reste bien sûr à une certaine échelle, tu vois, bien sûr forcément c'est jamais réglé. Mais en tout cas aujourd'hui je me sens beaucoup plus comprise, beaucoup plus entendue parce que j'ai pris le temps aussi et j'ai pris l'habitude de me tourner à l'intérieur. Donc forcément j'ai plus trop besoin non plus de, tu vois, tout le temps être comprise de l'extérieur, etc. Même si ça arrive encore.
Bien
Et donc du
sûr.
coup je suis un peu là en mode, en fait c'est pas que ça a plus de sens ce que je fais, mais c'est qu'en fait maintenant je vois plus l'intérêt de le faire de cette façon, je vois plus l'intérêt de le faire parce qu'en fait c'est plus quelque chose que je traverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait bizarre quand tu déconstruis ça et que pendant plusieurs années tu étais là-dessus et que là d'un coup tu as l'impression que tu as une grosse perte de sens en mode mais maintenant je me base sur quoi en fait? C'est quoi qui va me driver?
J'adore. Bah, j'ai envie de dire, en fait, félicitations parce que là, ce que tu es en train de me dire, en gros, c'est Manon, j'ai évolué. C'est simplement ça. Et il y a une part de toi qui dit, mais j'ai peur parce que je suis en train de perdre quelque chose avec lequel je me définissais intensément. Et donc, qui va émerger à la place? Mais j'ai envie de te dire, si tu as des objectifs de vie que tu as envie d'accomplir, qu'ils soient pro ou qu'ils soient perso, ça va nécessairement te demander de changer qui tu es.
Ouais,
Donc, finalement,
complètement.
en lâchant qui tu as été, alors ça ne veut pas dire lâcher, ça ne veut pas dire rejeter ou quoi que ce soit.
Ouais.
Non, non, non. On garde tout ça bien à l'intérieur de nous. Mais ça veut dire que tu te laisses de l'espace pour pouvoir devenir la personne que tu es destinée à devenir afin de pouvoir accomplir ce que tu veux. C'est quand même juste exceptionnel.
Ouais, non,
Mais
c'est cool.
en effet, consciemment, quand tu traverses ça, et ça me parle beaucoup, beaucoup, ce que tu me dis, tu as cette perte de sens. Moi, pareil, je me suis lancée il y a 3-4 ans et je voulais accompagner les personnes sur un plan plutôt d'abord personnel quand même, même si j'avais cette idée d'entrepreneuriat derrière, mais je ne passais pas du tout par le biais de l'entreprise. Et alors, j'ai pas eu de véhémence quand je me suis lancée à mon compte, mais j'ai senti beaucoup de peur de ma famille, de mon entourage, de est-ce que ça va marcher ton truc, c'est compliqué. Moi, je me suis directement installée en visio en plus, même mes formateurs me disaient que ça fonctionnerait pas, etc. Donc, j'avais vraiment, je me sentais un peu seule, même si j'avais un soutien. Je savais que ce soutien, parfois, les gens ne comprenaient pas en plus où je voulais aller et ce que je voulais faire. Et donc pour moi, ça, c'était compliqué parce que je me sentais extrêmement seule. Et toujours est-il que ce truc-là, en fait, il y avait un peu quand j'ai commencé le sentiment de dire, OK, I'll show you, tu vois, genre,
Oui, grave.
je vais vous
Mais
montrer,
je suis
je vais
vachement
le
là-dedans
faire.
aussi, le OK, très bien, t'inquiète.
C'est ça, c'est genre, t'inquiète, t'inquiète, OK,
Ouais.
tu crois pas en moi, oh, t'inquiète, je vais te montrer, je vais faire encore
Ouais.
plus. Et ça m'a vraiment drivée et motivée. Et j'ai bossé sur moi énormément, personnellement, dans le cadre de thérapies
Ouais.
diverses et variées. Et ça, c'est un peu. Enfin, c'est plus du tout là, en fait. J'ai besoin de montrer et de prouver, c'est plus du tout là. Et donc, bah forcément, ça a modifié les personnes aussi que je voulais
Bah,
accompagner et
bien sûr.
la promesse et l'énergie que je mettais derrière. Et là, ça a été genre, ouf, mais du coup, qu'est-ce que je fais?
Oui.
J'ai plus d'élan, en fait. Et je me suis rendu compte que ce qui se passait, c'était pas tant que j'avais plus d'élan ou plus de motivation, c'est que j'avais plus d'élan ou de motivation pour faire ce que j'ai fait jusqu'à présent parce que je suis arrivée au bout et j'étais prête pour la prochaine étape. Et donc, c'est
Trop
pour ça que
intéressant.
moi, j'ai des cycles. Que là, aujourd'hui, j'ai arrêté depuis quelques mois les consultations individuelles ponctuelles
Ouais.
pour proposer uniquement des accompagnements. Et je passe à une autre étape aussi, là, qui va arriver, on parlera peut-être après, mais qui est plutôt la contribution par le biais de transmission de connaissances et de pratiques sous forme de programme.
Ouais, trop
Quelque
bien.
chose que je
Oui,
ne
c'est
voulais absolument pas faire avant. Vous avez dit jamais j'accompagnerai les entrepreneurs, jamais je parlerai de business, jamais je travaillerai avec des coachs et jamais je ferai de programme en ligne. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Absolument tout ça.
l'inverse.
Et donc ça demande une sacrée remise en question une sacrée introspection et acceptation en fait de se
Ouais.
dire waouh, j'ai quelque chose qui change à l'intérieur de moi et
Ouais.
ça se fait pas malgré moi, mais ça se fait au-delà et à travers moi.
Déjà, merci toi aussi de nous partager tout ça parce que tu sais, on est ensemble, on discute de tout ça. Donc moi, ça me fait tellement plaisir aussi de te voir comme ça évoluer, t'épanouir. Enfin, voilà, ça me rend heureuse. Merci de partager tout ça avec nous. Et je trouve aussi, pour rebondir là sur ce que tu dis, donc il y a cette notion d'évolution et je trouve, tu sais, il y a aussi cette notion de deuil parce que parfois, évoluer de cette façon-là. Ça te demande de faire alors autant le deuil d'une ancienne version de toi, mais aussi, tu sais, le deuil d'une ancienne façon de faire. Et ça, je pense que c'est l'une des choses, tu vois, genre, les plus challengeantes pour moi, parce que, ben, tu sais, encore une fois, il y a cette notion où les gens t'ont peut-être vu et t'ont peut-être reconnu d'une certaine façon, tu vois, ou en tout cas, à faire une certaine chose. Et là, moi, je suis à un point où je me dis, OK, alors là, ce que je fais, c'est cool. Et donc, je pense qu'il y a encore une partie de moi, tu vois, qui essaye un petit peu de jongler, qui est un peu là, bon, on va maintenir un petit peu encore ce qu'on peut maintenir, tu vois. Mais en vrai, tu vois, genre là, moi, je suis là en mode, OK, maintenant, mon rêve, moi, c'est de monter des putains de chaînes de podcasts exceptionnelles à interviewer des gens incroyables et me déplacer pour aller les voir, tu vois, et me baser vraiment sur cette notion d'inspiration, tu vois. Et donc, bah, ça demande, tu sais, de rebondir, de faire le deuil, de se dire, OK, très bien, mais là, ça me demande quand même un changement presque, alors peut-être pas à 360 degrés, mais un bon 180 degrés par rapport à ce qui a été connu jusqu'à maintenant. Et donc, je sais que beaucoup de personnes ont été dans cette dynamique-là, qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur partager ou leur dire pour peut-être apaiser aussi cette notion de deuil par rapport au fait de qui elles étaient ou ce qu'elles faisaient et maintenant les changements qui arrivent pour elles?
Carrément. Alors déjà, déjà, je trouve ton projet génial et je te vois
Merci.
absolument totalement là-dedans, clairement.
On se retrouvera au niveau de ton van, tu sais, devant la mer pour
C'est
faire
ça.
notre prochaine interview la prochaine
Ok,
fois.
c'est noté. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que j'ai un van, donc un camion de pompiers. Mais ouais, carrément, carrément, on fera ça. Il faudra que j'installe des trucs pour pouvoir capter la Wi-Fi ou quoi selon où on est, mais ça peut se faire.
Je
Quand je dis,
ramènerai
il
les
faudra que
caméras
j'installe,
et tout, t'inquiète.
ce sera mon mec. Ok. Et en fait, je voudrais juste rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit, si je veux réaliser ce projet de chaîne podcast, ça me demande de faire totalement différemment. Et donc, les personnes sont habituées et m'ont appréciée ou reconnue ou valorisée parce que j'avais aussi une certaine façon de faire. Donc, du coup, si je fais différemment, est-ce que ça ne va pas changer? C'est bien ça que tu m'as dit, on est d'accord?
Oui, c'est ça. Et puis même, tu sais, genre, ne serait-ce que là, si on parle vraiment aussi purement business, hein, puisque c'est la thématique, Bah, ne serait-ce que le modèle économique, par exemple, tu te rémunères pas du tout de la même façon quand tu fais des accompagnements, quand tu as des programmes en ligne et
Bien
que
sûr.
ça tourne en permanence, que quand justement tu dis, OK, bon, bah là, c'est cool avec ma chaîne de podcast, je vais commencer à mettre des choses en place pour rémunérer ma chaîne de podcast, mais qu'en fait, tu sais très bien que c'est quelque chose qui va se construire sur le long terme, en fait, tu vois.
Carrément. Et ben en fait, c'est trop bien parce que ça fait parfaitement le lien avec ce que je suis en
Ouais.
train de vivre en même temps. La première chose, c'est est-ce que tu as envie que tu sois apprécié, reconnu et valorisé pour ce que tu fais ou pour ce que tu es?
Ouais, non, pour ce que je suis, ça
Tu
c'est sûr et
vois?
certain.
Ok. Je transpose pour ceux qui nous illustrent, pour ceux qui nous écoutent, pardon, d'une façon différente, encore une fois, mais c'est votre meilleur ami ou votre conjoint ou conjointe. Vous l'aimez parce que il fait du sport, parce que il lit ou parce qu'il sait bien cuisiner, ou vous l'aimez parce qu'il est pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Tu vois? Si il ou elle décidait de changer de métier, de devenir mécano, de, je sais pas, s'habiller différemment, de se couper les cheveux. Ça reste la même personne, en fait, que vous aimez, peu importe ce qu'il ou elle fait. Donc, quand il y a des inquiétudes qui peuvent monter sur « Ah, mais je commence à faire des choses différemment, est-ce que les personnes vont toujours aimer et ou me suivre ?» Là, on sent qu'il y a une partie de toi émotionnelle qui est en train de s'exprimer et qui a peur juste de plus être aimée. Donc, potentiellement, ce serait une plus petite prudence, plus jeune, qui recherche encore, et de toute façon, je pense qu'on en a toute notre vie, hein, ce genre de partie-là, mais qui recherche encore, à un certain degré, une approbation et une reconnaissance, plutôt du coup parentale. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, ça te demande, d'un point de vue business, de faire des choses différemment. Et donc, bah, ça fait flipper parce que là, ça vient activer plusieurs choses. La peur de l'inconnu, je ne sais pas comment ça va se passer. Le besoin de contrôle, je ne peux pas anticiper et donc contrôler les conséquences et les résultats de mes actions. Le fait qu'il peut y avoir la peur du manque, parce que ça demande aussi un modèle de rémunération qui est différent. Mais moi, j'ai traversé ça là en fin d'année. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai arrêté de faire des séances ponctuelles à la carte. Ce qui représentait une bonne partie, une très très bonne partie de mon CA. Mais c'était plus aligné pour moi de le faire. J'avais trop de rendez-vous. Alors les gens peut-être vont m'écouter, ils vont me dire, attends, trop de rendez-vous, trop de clients, oh là là, ouin ouin. Mais en fait,
Non, mais je
juste
me
moi,
rappelle,
c'était plus
hein,
aligné.
je me rappelle de ça. Bon, bah écoutez, il me reste plus que 2 places là pour ce mois-ci. J'étais, oh non, mais moi je voulais prendre une place. Et du coup,
Ouais,
je
j'avais mon
m'étais vite
agenda, c'est vrai.
dépêchée.
Mon agenda était booké. Alors après, j'ai
Ouais.
réservé certains créneaux pour souffler aussi, mais mon agenda était booké 2 mois à l'avance. Et ce que j'avais anticipé comme quelque chose de cool, on se dit, mais c'est le rêve de tout accompagnant d'avoir 2 mois de visibilité. Finalement, ça, quand je l'ai vécu, comme quoi la différence entre ce qu'on anticipe et ce
Ouais,
qu'on
ce
vit est
qu'on
très différente.
anticipait.
Quand j'ai vu mon agenda, j'ai fait, oh, je me suis sentie étouffée et submergée.
Ouais,
Parce que je me suis dit, mais je ne vais plus avoir de temps pour moi, je ne vais plus avoir de temps pour mes projets, parce que j'avais plein d'autres idées pro à mettre en place. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir mettre en place mes projets dans l'instant me
OK.
disait, bah, je perds aussi du temps. Donc c'était compliqué parce que c'est oui, c'est bien, je rentre de l'argent, mais en même temps, ben, ce n'est pas quelque chose qui est épanoui. Et à la fin de l'année, j'en arrivais vraiment à ne pas avoir envie en fait, de faire des séances. À me sentir vraiment fatiguée et plein d'autres choses plus physiques. Alors, je connais bien mon corps maintenant, je sais quand est-ce qu'il parle. Des fois, je l'écoute pas tout le temps, mais là, je l'ai écouté et j'ai fini mes engagements et j'ai dit, bon, ben, d'accord. Je me suis fait accompagner par deux personnes là-dessus, par deux coachs, une plus business stratégie très complète et une beaucoup plus dans l'énergie, l'intuition. Et en fait, ce qui a émergé, c'est ouais, bah, j'ai plus envie de faire ça, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je continue de faire ça sous prétexte de voilà, continuer à vivre de mon activité confortablement, mais à pas être bien et à essayer de me dégager du temps pour mes projets à côté? Ou est-ce que je parie sur moi, je choisis de croire en moi, j'accepte de réduire mes revenus au moment en plus où je passe en société pour pouvoir finalement me dégager du temps et monter le projet qui me fait vraiment kiffer? Le fait est que c'est ce que j'ai fait et que là, en janvier, j'ai dit, OK, c'est un mois reset pour moi. Je suis partie en vacances, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai pris des rendez-vous, j'ai dentiste, massage. Enfin, voilà. Je me suis remise beaucoup plus régulièrement au sport, plusieurs fois par semaine. J'ai remis ma routine en place, etc. Et en fait, moi qui avais toujours fonctionné sur le fait que je dois construire mon business pour pouvoir me sentir libre, épanouie,
Mmh.
abondante. J'ai totalement choisi de renverser le paradigme. Je ne dis pas que ça a été facile, je ne dis pas que je n'ai pas eu peur, je ne dis pas que je n'ai pas encore des petits pics de doute. Mais là, j'ai dit non, en fait. Je vais me concentrer d'abord sur moi et sur mon bien-être, parce que si j'ai, je suis en capacité de pouvoir le faire, pour pouvoir monter un projet dans une énergie qui est porteuse pour moi. Et pas dans un truc où j'ai besoin de rentrer de l'argent, où je suis en stress, où je me sens submergée. Et ça change totalement, totalement la donne, en fait. Et finalement, la question de ce que tu me disais sur ouais, le modèle de rémunération qui est différent par rapport à ce que tu souhaites faire, il y a aussi cette notion de temps. C'est-à-dire,
Oui.
le cerveau, il fonctionne sur la rétribution immédiate et c'est compliqué et difficile et inconfortable de capitaliser sur la rétribution qui est
Oui.
différée. Donc forcément, on préfère en gros manger une pizza que aller à la salle de sport. Parce que au bout d'un moment, on aime aller à la salle de sport, mais au tout début, quand on se met à faire du sport, on n'aime pas ça. Et en fait, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. C'est est-ce que tu préfères gagner confortablement, commencer à gagner ta vie maintenant et continuer à générer du revenu, voilà, sans faire un truc de fou qui t'éclate, ou est-ce que tu paries sur toi et tu acceptes pendant, je sais pas, un mois, 6 mois, peut-être un an de moins générer de revenus, voire de trouver d'autres solutions pour générer
Exactement, c'est ce que je
de revenus.
pensais aussi. Il y a toujours des façons aussi, quand tu as un
Exactement.
projet qui... En fait, c'est ça aussi, tu vois, genre pour revenir aussi sur quand quelque chose nous motive, etc. Quand quelque chose nous motive vraiment, qu'on a vraiment envie de mettre ce projet en place, c'est là où je pense aussi qu'on est beaucoup plus ouvert à se dire, ah tiens, mais en fait, j'avais dit que peut-être je ne reprendrais jamais un taf salarié, mais et si en fait je le faisais juste pour pouvoir monter mon projet tranquille, en fait?
Carrément, carrément. Et merci, merci de dire ça, en fait, Prudence, parce que je rencontre tellement de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui arrivent au bout de leurs annuités Pôle emploi et qui me disent, mais l'angoisse, le cauchemar pour moi, ce serait de retourner au salariat. Ben, en fait, c'est super violent de se dire ça parce que en se fermant à cette possibilité-là, on se met tellement de pression de devoir réussir dans notre entreprise, que parfois on va du coup activer nos leviers de peur du manque,
Oui,
etc. Alors que
exactement.
si on se dit, mais je peux reprendre un mi-temps pour un truc totalement différent, pour quelque chose, je sais pas, travailler à la bibliothèque par exemple, ou faire des conduites d'enfants, ou du babysitting, et ben en fait, imaginez à quel point c'est différent de se dire, je génère un revenu suffisant chaque mois grâce à mon temps partiel pour pouvoir payer mon loyer, payer mes prêts, payer mes
Oui.
factures, et puis bah, vivre, hein, bien sûr, un petit peu quand même. Et à côté, j'ai plein de temps libre pour pouvoir me consacrer sans stress à développer mon projet.
Ouais,
La
et ben
différence
clairement.
d'énergie, elle n'y a pas photo.
Elle est
C'est pas
complètement
une
différente et
peur, c'est pas une
oui.
honte en fait, de retourner au salariat. Je dirais même que c'est un signe d'intelligence et de résilience, et de je crois tellement en mon projet que je crée les bonnes conditions
Ouais.
pour construire les fondations de ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui va durer dans le temps.
Exactement. Ben, tu vois, pour avoir échangé avec beaucoup de personnes qui ont peur de retourner dans le salariat, et puis pour partager aussi mon expérience, il y a, tu sais, je trouve, soit les personnes qui ont vraiment eu une expérience très compliquée dans le salariat, et donc, tu sais, elles ont vu un peu l'entrepreneuriat comme, ah oh, waouh, l'entrepreneuriat, ça va me permettre de faire complètement différent. Et puis, ben, c'est là où on a les personnes qui s'épanouissent dans l'entrepreneuriat et les personnes qui se rendent compte que l'entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça, même si en salariat, ça s'était pas forcément bien passé. Pour ma part, ça a été long parce que je pense que ça fait longtemps aussi en vrai que je, enfin, tu sais, je le considérais quand même comme une source de revenus, tu vois, mais je dirais qu'il y avait deux choses. Il y avait me confronter à mon sentiment d'échec, et je ne dis pas mon échec parce qu'en soi, c'est juste un sentiment, tu vois.
Bien
Donc,
sûr.
me confronter au fait que moi, j'allais potentiellement voir ça, tu vois, comme un échec. Et puis, je pense aussi que jusqu'à maintenant, j'avais la peur de me dire... Ah ouais, mais bon, il faudra que je retourne dans un job, parce que moi, j'ai fait beaucoup de restauration, tu sais, quand justement j'avais des jobs salariés. Donc, j'étais là,
Ouais.
ouais, mais bon, il faudra que je fasse un job qui me plaise pas et je vais devoir retourner dans la restauration, mais moi, j'ai pas envie. Et en fait, quand j'ai commencé justement à me dire, ok, bon, allez, je vais me confronter à mon sentiment d'échec, ça va le faire, au contraire, ça va peut-être m'aider à monter mon projet. Et puis à cette notion de, mais en fait, maintenant, avec toutes les compétences que j'ai développées, je peux vraiment apply, appliquer, je peux postuler à un job, mais putain, mais qui m'épanouira en plus à côté. Mais je vois les choses, mais complètement différemment. Je le vois vraiment comme une possibilité, une ouverture, une solution pour monter mon projet, en fait, tu vois.
Carrément, carrément. Et ça me fait penser un peu à ce que moi, juge comme étant des dérives de l'accompagnement, des accompagnants et des coachs qui disent avoir un plan B, se dire qu'on va retourner au salariat,
Ah
c'est ça, c'est pas bien parce que ça donne un filet de sécurité et donc
oui.
ça donne une excuse pour ne pas réussir. Mais c'est totalement faux en fait, c'est même totalement l'inverse selon les personnes,
Ouais.
parce qu'encore une fois, on ne peut pas appliquer une règle à tout le monde.
Mmh.
Il y a des personnes qui sont tellement déjà, on a parlé de l'attachement, on a parlé du système nerveux dans le
Ouais.
dernier épisode, qui sont déjà dans des situations, dans des états qui sont dérégulés, que créer encore plus de dérégulation ne va pas les aider. Ce qu'il faut faire
Exactement.
en premier lieu, c'est sécuriser le système intérieur. Comment on sécurise? Avec un plan B. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont fonctionner au bâton. Et dans ce
Ouais.
cas-là, c'est totalement OK. S'ils se sentent vraiment bien, mais pas juste je me dis je me sens bien, c'est juste vraiment dans le corps, c'est OK. OK, bah let's go. Pas de plan B parce que tu sais que tu as les capacités d'adaptation, de
Ouais.
résilience et que si vraiment c'est la merde, tu trouveras une solution. Mais pour deux autres personnes, c'est totalement OK en fait de reprendre un taf. Qui plus est, en effet, si tu peux capitaliser sur de nouvelles expériences, sur tes compétences, en fait, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi que ce soit.
Et justement, alors ça fait le lien pareil, toujours avec cette thématique de la femme entrepreneur. Tu me diras, voilà, comment tu vois les choses, ce que tu en penses. Et je trouve que c'est là aussi quand justement tu as un pourquoi qui est fort. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de, bah, comme tu dis, parfois, si on a un taf à côté ou si on a le pôle emploi, etc., c'est vrai qu'il y a un peu cette notion de complaisance. On peut parfois se complaire, tu sais, et se dire, oh ouais, mais non, flemme, tu vois. Mais quand tu as un projet qui te porte et que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu veux le monter, tu sais pourquoi c'est important, bah en fait, tu trouveras le temps, tu trouveras l'énergie, tu trouveras en fait les moments pour pouvoir monter ce projet. Comment est-ce que toi, tu vois les choses là-dessus?
Ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, je voulais aussi dire par rapport au fait de retourner, cette notion de j'ai pas envie de retourner au salariat et que beaucoup d'entrepreneurs sont devenus entrepreneurs de par une mauvaise expérience dans le salariat, parce qu'il y a cette notion de être entrepreneur, je vais être plus libre. Ben, en fait, on retrouve ce dont je parlais tout à l'heure sur les processus des blessures. On n'est pas dans la sublimation, on n'est pas dans la répétition, on est dans l'opposition. C'est pas je vais vers l'entrepreneuriat parce que c'est porteur et que c'est cool, c'est je vais vers l'entrepreneuriat parce que j'ai une blessure qui m'a éloignée du salariat et que j'ai tout un système de croyances qui me fait croire, qui me crée une représentation interne que entrepreneuriat égale liberté. Entrepreneuriat peut être égal à liberté selon ce qu'on entend par liberté, mais je connais, enfin j'ai quand même quasiment tous mes potes qui sont salariés et ils sont plus libres d'esprit. Qu'un entrepreneur. Ils sont moins libres géographiquement et en temps, on est d'accord, mais d'esprit, moi je pense, peut-être plus tout le temps maintenant, mais voilà, je fonctionne très très boulot dans ma tête, le week-end, etc. Je vais avoir des idées, je vais les noter, je ne travaille pas, c'est non négociable, mais faut pas que l'entrepreneuriat soit une fuite pour davantage de liberté.
Ouais,
Parce que là,
mais tu
on
sais
retombe sur
que...
je remets des attentes émotionnelles, ça va me sauver. C'est l'entrepreneuriat qui va me sauver. C'est mon business qui va me sauver. Mon business qui va me faire sentir bien. Ouf, imagine la pression.
Ah non, mais grave. Mais tu sais que ça, c'est l'une des choses aussi qui m'a aidée à voir encore une fois cette possibilité. C'est quand je vois des gens, en fait, tu vois, genre qui voyagent plus que moi alors qu'ils ne sont pas entrepreneurs, par exemple. Tu vois, je me dis,
Bien
cette
sûr,
personne, elle n'est
bien
pas
sûr.
entrepreneur, elle n'a pas la liberté d'espace et elle voyage plus que moi. Et moi, j'ai l'impression d'être libre, tu vois, genre. Et puis, c'est aussi, comme tu dis, la charge mentale. Moi, je commence à arriver à un point là où, tu vois, alors, j'ai 27 ans, tu vois, j'en ai pas encore 50 ou 45. Mais ça me traverse régulièrement l'esprit de me dire, putain, mais est-ce que je me vois encore à 35, 40 ans être là à me dire, ah oui, alors attends, il faut que je poste ça sur Instagram, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tu vois, et avoir quelque part la charge mentale de penser à ça. Alors, pour le podcast, au contraire, ça me fait kiffer, tu vois, genre de me dire, ouais, je veux faire ça, je vais interviewer telle personne. Mais sur Instagram, tu vois, en ce moment, ça me trigger vachement et j'y réfléchis vachement à me dire, mais en fait, je ne me vois pas toute ma vie utiliser en tout cas Instagram de cette façon. Et tu vois, genre, être. Que tout mon business ou que même toute ma, c'est pas vraiment ma personnalité, tu vois, mais que tout mon personal brand tourne autour ou d'une appli comme ça où tu es tout le temps en train de poster, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de machin. Enfin, tu vois, genre moi, ça, je sais que je commence à me dire, mais je veux juste de la paix d'esprit, en fait, et être tranquille, tu vois.
Carrément, bah ça c'est hyper intéressant parce que finalement, tu as déjà un élément qui te dit que avoir la vision long terme en fait, dans l'entrepreneuriat est primordial pour pouvoir poser des actions qui vont être alignées et pertinentes par rapport à notre projet. En fait, c'est pas en posant des actions sur les 6 mois à venir. Alors, C'est important d'avoir un plan d'action, mais c'est pas en ayant une vision à 6 mois qu'on va développer un projet qui sera pérenne et stable
Exactement.
et vraiment aligné à nos valeurs. Parce que peut-être que là, j'ai envie de voyager de ouf, mais que si j'étends ça à long terme, je vais me dire, ah, mais peut-être que j'aurais pas envie de voyager autant après, parce que si je me marie et que j'ai des enfants et que machin et que truc. Donc, toujours garder ça aussi en tête, et c'est bien d'avoir les deux. Et comme tu me disais, les gens salariés peuvent voyager plus que les entrepreneurs, parce que, en fait, bah, quand on est salarié, on peut partir en vacances et être payé, pas quand on est entrepreneur, sauf si on a en place des revenus passifs ou d'autres sources de revenus en dehors de l'entreprise. Mais ça aussi, c'est bon à savoir, parce que ça fait bizarre hein, quand tu prends tes premières semaines de vacances et tu te dis, tu vois ton mois, tu rentres pas d'argent si tu es parti un mois, tu fais d'accord.
Ok, très bien. Ou tu vois
On n'est pas préparé à ça.
les
On
entrepreneurs
le
qui partent
sait.
pas en vacances pendant 3 à 5 ans, tu vois, et qui disent, oh, ce sont mes premières vacances depuis 5 ans. Ah, ok,
C'est ça.
d'accord,
Ceux qui
très
partent
bien.
en vacances et qui disent, bon, en fait, c'est pas vraiment des vacances parce que je bosse le matin.
Voilà,
Voilà.
exactement.
Donc
Donc
après,
du coup,
c'est OK, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Et
tu sais,
du coup, c'est... Ouais, vas-y, je t'en prie.
non, j'allais juste rebondir là-dessus parce que récemment j'ai entendu une phrase, tu sais, qui m'a marquée, qui est ce que tu veux n'est pas l'opposé de ce que tu ne veux pas.
Tellement.
Et cette phrase, elle m'a retourné le cerveau parce qu'il y a eu un moment donné où j'étais là, c'est vrai que ben pour, tu sais, des fois tu te dis ben pour t'aider à définir ce que tu veux, ben attends, déjà je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Et en fait, depuis que j'ai entendu cette phrase, je me dis, mais en fait, il y a quand même pas mal de vrai là-dedans. Ce que tu veux n'est pas toujours l'opposé de ce que
Totalement.
tu ne veux pas, en fait.
Ouais, c'est pas parce que tu veux plus être salarié que tu dois être entrepreneur.
Exactement. Tu peux trouver
Typiquement.
tu peux trouver un autre taf salarié, mais où tu es mieux traité, où tu es mieux payé, où tes compétences, elles sont mieux utilisées, en fait. Enfin,
C'est ça. Puis pour la
exactement.
plupart des gens, moi je sais que j'ai beaucoup de clientes qui ont notamment fait des burn-out ou connu des harcèlements, etc., dans leur travail pro, burn-out ou bore-out d'ailleurs. Qui les ont menés, soit elles étaient en période de transition, soit à monter leur entreprise. Le problème, ce n'était pas le salariat. Le problème, c'était beaucoup plus précis. C'était soit le harcèlement dans cette entreprise, soit c'était le relationnel parce que je n'ai pas su poser mes limites avec mon boss, soit c'était le rythme horaire. Voilà, donc en fait, ce n'était pas le salariat le problème. Peut-être que si je bossais en tant que... libraire et que j'ai mes horaires, je fais 35 heures semaine où c'est fluide, où j'ai pas de collègues parce que moi j'ai envie d'être un peu solo et puis que j'ai quelques tâches variées, bah, peut-être qu'en fait pour moi ça c'est la liberté, le calme et non. Voilà, donc je peux être totalement salariée et trouver ce que je veux aussi. Donc ouais, la phrase elle est vraiment super chouette, super chouette.
J'aime beaucoup. Et question un peu plus personnelle, du coup, sur le sujet, qu'est-ce qui, toi, alors, je ne sais pas trop comment toi la question, j'allais dire, qu'est-ce qui te donne envie de rester entrepreneur? Qu'est-ce qui te motive à être entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait rester dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat?
C'est une bonne question qu'on m'avait jamais posée.
C'est
parce
la
que du coup,
journée des questions jamais posées, du coup.
c'est ça. La première chose qui me vient, c'est rigolo parce que ça fait du lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est que je me suis rendu compte que quand j'étais salariée, la structure du salariat, là, c'était pas forcément. Alors, il y a eu des expériences qui n'étaient pas forcément agréables. Limite un burn-out, beaucoup de boulot, des horaires. Enfin, je travaillais à Paris dans le monde de l'édition et du cinéma, donc je te laisse imaginer la charge mentale et les horaires qu'on faisait. Mais la structure, en fait, m'a dérangée. Je n'aimais pas avoir un chef, un patron. Je n'aimais pas qu'on me donne des missions. Je voulais décider de ce que je voulais faire. En fait, je me sentais infantilisée. Et passive en tant que salariée. Et cette position-là ne me convenait pas. J'ai fait quelques boulots et à chaque fois, j'ai ressenti ce sentiment d'enfermement. Donc ça m'a motivée à sortir du salariat et ça m'a motivée à me dire, bon, bah, du coup, j'ai réfléchi en opposé, hein, si je vais créer mon entreprise. Mais en même temps, j'ai toujours dit, depuis que je suis genre en primaire, que je créerai ma société. Donc, il y avait déjà aussi ce truc de je
Ouais,
savais
c'était
que je
lent.
serais. J'arrive même pas à l'expliquer en mots, mais je le ressentais. J'avais 8 ans et je disais que j'allais créer ma société. Enfin, bon, voilà. Et ensuite, ce qui me motive à continuer d'être entrepreneur, c'est l'espace de souplesse de flexibilité, d'adaptabilité et de création que ça me permet. C'est-à-dire que là, en 3 ans, alors j'ai des cycles en général de 3 ans. Et donc là, il y a vraiment un gros nouveau cycle qui vient avec un changement de business model. Mais même sur les 3, 4 premières années, j'ai vu des évolutions. Au début, j'étais que sur du one-one. Et puis ensuite, alors que j'avais dit que j'accompagnerais jamais des traumas, des peurs, des phobies, etc. Et tout ce qui est aussi plus familial, transgénérationnel, sur voilà, des histoires d'abus, etc. Donc des sujets très, très lourds. C'est ce que j'ai fait tout 2022 et 2023. Les gens sont venus à moi sans que j'en parle nécessairement. Et ça m'a plu. Et ça a permis aussi de guérir quelque chose à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai permuté vers plus des dynamiques et des notions d'entrepreneur. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait aussi un sujet là-dedans, que j'étais en plein dedans, que c'est ce que je traversais et que j'étais bonne, en fait, à accompagner de cette façon-là et de façon différente. Et j'ai fait, waouh, putain, mais en fait, c'est trop cool. Et là, il y a encore autre chose qui vient. Et donc, la notion vraiment de pouvoir créer et de pouvoir adapter ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que je ressens dans l'instant présent me plaît énormément. Parce que voilà, le côté multipotentiel ou zèbre me parle bien, je peux me lasser très rapidement. Et donc, du coup, là, il n'y a plus du tout de frustration et
Ouais,
de lassitude et d'ennui.
complètement.
Et c'est quand même juste génial, quoi. Toi, je ne sais pas ce qui te pousse, qu'est-ce qui te parle dans l'entrepreneuriat aujourd'hui?
Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages. On a des points assez similaires. Moi, c'était aux alentours de 16 ans, tu vois. Je disais déjà que je voulais être indépendante, tu vois. Genre, il y avait un truc, je me disais, je veux être indépendante, je veux être indépendante, je veux être indépendante. J'ai pas eu, on va dire, tu vois, genre en plus de ça, des grosses mauvaises expériences, tu vois, dans le salariat. J'en ai eu quelques-unes, mais c'est pas non plus, voilà. Mais il y avait cette notion de je veux pouvoir faire ce que je veux comme je veux, en fait. Donc voilà, ça a été principalement ça. Et puis, comme toi, en fait, j'aime pouvoir exploiter mon côté multipotentiel, en fait, pouvoir me dire, bah, en fait, je parle des sujets que je veux, je les aborde comme je veux, justement, je peux transmettre. Moi, j'adore transmettre, j'adore enseigner aussi, j'adore inspirer. Et donc, du coup, ben, tu vois, c'est la liberté aussi de pouvoir non pas le faire avec un cadre, tu sais, en particulier, où on te dit, bah voilà, tu peux parler que de ça ou que de ça, ou alors il faut que tu le fasses de telle façon ou telle façon. C'est vraiment, bah voilà, si je veux faire un podcast de 2 heures aujourd'hui, bah, je le fais. Si je veux faire un podcast de 5 minutes, bah, je le fais. Et donc, c'est aussi, voilà, cette liberté de pouvoir apporter des choses.
Trop bien. Ouais, je trouve que ça te correspond beaucoup pour ce que tu me dis, donc c'est top.
Oh, merci beaucoup. Eh ben, super. Alors, écoute, je me souviens plus du tout de la question du coup que je t'ai posée tout à l'heure, où on a dit, bah,
C'était
on
sur
y
la place des
revient.
femmes,
Ok.
sur la notion des femmes.
Heureusement que du coup, tu t'en souviens. Alors, bah, est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus?
Ouais, je trouve que c'est un sujet qui est important et c'est rigolo parce que... Avant, j'y pensais pas plus que ça. Et finalement, je me rends compte que j'accompagne quasiment que des femmes. J'ai quelques hommes, mais principalement que des femmes. C'est pour ça que je parle de clientes. Et ce que je remarque, c'est que dans celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui débutent et ou qui se sont déjà lancées, mais qui n'ont pas les résultats espérés, on retrouve tout un tas de croyances, entre autres, qui sont similaires. Et qui vont avoir attrait à je ne suis pas assez, j'ai peur d'échouer, il faut que je sois parfaite, etc. Tout ça revient à des constructions qu'on a internalisées dans notre enfance et qui nous ont été aussi transmises par le transgénérationnel de la petite fille, la bonne élève, la petite fille parfaite. Qu'on ait eu des bons résultats à l'école ou pas. Il y a vraiment cette notion de je dois faire comme papa et maman, ils ont dit. Parce qu'il y a vraiment, quand on regarde même dans les films ou dans les livres, dans des histoires, c'est le petit garçon qui crie, qui peut se mettre en colère, qui va dans la boue, qui va jouer avec des camions, donc c'est très très genré en plus comme vision, versus la petite fille qui parle pas trop, qui a ses petites robes bien propres, qui bouge pas trop, qui suit
Ne
les cours de
salit pas, il faut être
politesse.
gracieuse,
C'est
il faut être
ça.
bienveillante.
Exactement. Ah, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait quand même des cours dans les écoles de filles. On apprenait la couture, la cuisine, le ménage. Il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, les écoles aussi de politesse qui sont très, très british. On va apprendre Ils appellent ça les. Ouais, c'est vraiment le comment se positionner, comment se tenir, la révérence, etc., quoi. Donc, tout
Tout pour
ça.
être une femme forte et indépendante, hein, vraiment.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Mais tout, en fait, il y a vraiment ça. Et encore une fois, sociétalement, le fait que jusque dans les années 60, on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de notre mari, que
Ouais.
quand on se marie, on doit prendre. Alors, c'est pas une obligation, mais. C'est je prends le nom de mon mari, la convention. Alors maintenant, on peut garder les deux, on peut garder juste le nôtre, etc. Mais à la base, voilà, c'était sur les courriers. Monsieur et madame, et c'est le nom du mari. La femme est la femme de quelqu'un, la femme vraiment est dans l'ombre. Donc tout ça, ben, on en a hérité. Donc quand on a une génération de nanas là, qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine, qui arrivent, qui sont en mode fuck it, I'm gonna do my own thing. Et je veux créer mon entreprise, ouais, génial, vraiment super. Mais par contre, il y a déjà tout ça à nettoyer d'abord. Parce qu'après, c'est j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être critiquée, je peux pas, je vais prendre trop de place. Si je me montre, on va me jalouser ou on va me copier, on va se moquer de moi. Je peux pas gagner de l'argent, je peux pas gagner trop d'argent, je peux pas mieux faire que mes parents parce que ça prouverait que du coup, je suis. Indépendante et autonome et que j'avais raison. Or, moi, petite fille, je ne peux pas considérer le fait que mes parents avaient tort parce que on grandit aussi avec l'idée que les parents, ils ont toujours raison. Ça, c'est problématique aussi. Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai pas grandi avec des parents qui disaient, je suis désolée, j'ai fait une erreur et je me suis trompée. Donc, quand on se rend compte, on s'en rend compte rapidement quand on est enfant, ado et qu'on dit, mais je suis pas du tout d'accord avec mon père ou ma mère, consciemment. Mais à l'intérieur de nous, toutes les parts émotionnelles qui continuent de nous driver dans nos actions, elles sont en mode, ah bah non, papa, maman, ils ont raison. Donc déjà, il y a ça, il y a le côté sociétal, le côté d'être une femme, et puis en effet, il y a tout le côté transgénérationnel où, dans nos familles, si on remonte nos arbres généalogiques, même si on n'a pas forcément d'informations, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je sais que voilà, j'avais des grands-mères, des arrière-grands-mères, etc., etc., qui ne travaillaient pas ou peu. Qui ne gérait, enfin, gérait plutôt le foyer et les enfants. Voilà, on est vraiment dans les clichés un peu de l'ancien temps, des anciennes générations. Et donc aujourd'hui, on peut avoir des envies différentes parce qu'il y a des changements dans la société. On a accès à de l'information, on a accès à de la connaissance plus facilement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, et tant mieux. Mais
Et merci.
dans notre inconscient, dans notre inconscient, on a encore tous ces schémas-là, tous ces systèmes-là, imaginez que ça fait quoi? Allez, peut-être une ou deux générations qu'on est en train de voir l'essor de la femme, de. Alors, on apprécie ou on n'apprécie pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est juste une constatation, une observation sur
Ouais,
les
parfait.
mouvements féministes, sur tout ce qui va être le féminin sacré, sur ce qui va être les espaces de sororité, etc. Donc, tout ça montre bien que la place de la femme continue de prendre plus de place, et tant mieux, parce qu'elle était vraiment toute petite. Pour retrouver une sorte d'équilibre face à l'homme. Alors après, il y a toujours des mouvements sociologiques à étudier qui sont intéressants, qui fait que quand il y a un nouveau mouvement, on va d'abord passer dans l'extrême et dans l'opposition
L'extrême,
pour
ouais.
ensuite pouvoir se réguler. Il n'y a qu'à voir les partis, la création des partis politiques aussi, si on regarde les genèses, c'est intéressant. Mais tout ça pour dire que ça fait seulement, allez, deux générations, peut-être trois, et encore, je suis pas trop sûre, deux générations où on commence à œuvrer pour les femmes. Donc ça veut dire qu'on a, je ne sais pas combien de centaines d'années, voire de milliers d'années derrière nous, en fait, de choses à déprogrammer. Fort heureusement, il y a quand même des informations qui sont intéressantes parce que quand on regarde dans des anciennes sociétés, notamment en Afrique, mais pas que, il y avait, et il y a encore, en fait, dans certaines zones, pardon. Par exemple, le matriarcat ou
Oui,
des
ça j'en avais
sociétés où
entendu
la femme, elle
parler.
est mise en avant, en fait. Donc ça, c'est intéressant de se dire, ouais, en fait, il y avait déjà ça avant. Et on va rentrer dans tout un débat sur ce qui s'est passé historiquement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un gros, 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 gros bagage culturel, sociétal, sociologique qu'on se traîne en tant que femme et qu'il est urgent, selon moi, d'adresser, d'en parler et de s'en débarrasser, de s'en libérer pour pouvoir en fait entrer pleinement dans notre puissance et créer des entreprises depuis notre énergie et notre place en tant que femme et non plus calquer des modèles et des process qui sont aux hommes.
Ouais,
Je sais pas ce
exactement.
que tu en penses.
Non, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai que quand tu vois, il y a énormément de. Alors, tu vois, tu parlais d'extrême tout à l'heure. Je trouve qu'à un moment donné, alors, notamment dans les années 2020-2021, il y a eu justement cet extrême opposé, tu sais, sur les réseaux sociaux avec le oui, mais pas besoin de faire du marketing, pas besoin de faire de ci, pas besoin de faire de ça. Ça vient à moi fluidement et
Manifestons et
le
ça va
voilà,
tomber. Hop.
manifestons et ça va tomber. Et donc, du coup, il y a eu justement cet extrême en mode oui, mais moi, avec ma puissance féminine, je n'ai rien à faire, tu vois, mais alors que non, en fait, voilà, il y a quand même aussi des faits. Mais par contre, c'est vrai que pendant très longtemps, l'entreprise, l'entrepreneuriat, le business a été justement un monde masculin. Et donc, énormément des stratégies qui étaient mises en place jusqu'à maintenant étaient très masculines, très dans le forcing, très dans le j'y vais, très dans le go, go, go. Alors qu'en fait, ben, en tant que femme, je trouve que là aussi, alors, c'est un point parmi tant d'autres, mais là aussi où je trouve que la société, elle mérite d'évoluer, c'est que bah, nous, les femmes, on est cycliques, on a des phases, on a des fois où ouais, on est 100% en pleine d'énergie, en pleine explosion, puis il y a des fois où en fait, c'est le moment aussi pour nous de se reposer. Et donc, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas agir de la même façon que les hommes en entrepreneuriat, en business ou même au travail en général, en fait. Et on
Bien
n'est pas là
sûr.
pour ça non plus, chacun a son rôle.
Oui, c'est ça en fait. C'est ça la notion de justesse en fait. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et pour préciser, quand on parle vraiment de notion d'homme et femme, c'est pas dans les débats de genre ou de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment dans la notion même archétypale en fait. On pourrait remplacer ce que Jung appelle en psychanalyse l'animus et l'anima. On est le yin et le yang. On est vraiment sur ces dynamiques-là d'archétypes et de symboles. On n'est pas du tout sur des considérations politiques, sociétales, sociologiques, etc. par rapport au genre. Hein.
Mais attends, j'ai une question d'ailleurs là-dessus, là que tu parles justement de cette énergie de ces yin et yang. Récemment, c'est pareil, j'ai lu un truc, je me dis, j'en profite pour te poser la question. Tu sais, il y a cette notion, on dit en Occident, de vue binaire. Genre, t'as le bien, le mal, t'as l'homme, la femme. Donc, énergie féminine, énergie masculine, t'as, ouais, bref, ce côté très binaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement? Est-ce que justement, tu penses que l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est trop binaire? Ou alors, est-ce que ça existe? Enfin, comment tu vois les choses, toi?
Ouais, bah du coup, je vais répondre de façon très personnelle, hein, donc
Oui, on
les
le sait.
gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Je pense que la dualité fait partie de l'existence humaine,
Ah, moi
c'est-à-dire
aussi.
que il n'y a pas de lumière sans ombre, mais il n'y a pas d'ombre sans lumière non plus. Là, c'est même des considérations qui sont physiques pour le coup, mathématiques. Du coup, je pense vraiment que c'est d'ailleurs une notion, c'est une notion dans la religion, hein, c'est le fait qu'il y ait le bien conditionne l'existence du mal, en fait. Parce que si on enlève le mal, si on prend le christianisme, si on enlève l'enfer,
Mais il n'y a pas de
bah, du coup,
paradis.
ça enlève, voilà, exactement, ça enlève la pertinence du bien avec un grand B et du paradis et de tout ce qu'il y a. Donc moi, je suis persuadée que voilà, la dualité fait partie de l'existence humaine, fait partie de la matière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dualité ne veut pas dire nécessairement opposition. Pour moi, ça veut dire complémentarité. Parce que, comme je disais, on ne peut pas avoir de l'ombre sans lumière, on ne peut pas avoir de lumière sans ombre. Donc on a besoin des deux. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça va être une question de degré. C'est-à-dire que je peux avoir beaucoup, beaucoup d'obscurité et une très faible lumière, mais je peux avoir énormément de lumière et une petite ombre due à ma chaise de jardin. Bon, ben, en fait, voilà, ça peut aussi se moduler. Il y a toujours du mouvement. Et la dernière chose aussi par rapport à cette notion de binaire ou de dualité, c'est que quand on entre dans des processus de développement personnel, d'introspection, de dialogue intérieur, enfin, voilà, tout ce qui va toucher à cette sphère-là, je trouve intéressant de partir sur un autre paradigme qui est plutôt le paradigme qu'on va retrouver dans les traditions bouddhistes, par exemple, de la non-dualité. C'est-à-dire que accéder à des espaces de conscience où je ne suis plus moi et il y a les autres, mais simplement je suis, en même temps que les autres, je suis connectée avec les autres, connectée avec l'univers. Vous savez, ces moments de flow où on a l'impression d'être dans notre corps, mais d'être aussi au-delà de notre corps, un petit peu comme si on était omniscient, comme si on était partout. Voilà, bah c'est les moments de transcendance que certains rapporte après certaines formes de méditation, par exemple,
Oui.
qu'on peut ressentir également dans le sport.
Oui.
Quand on accomplit quelque chose, par exemple, on finit un marathon et puis il y a ce truc de débordement de soi où on est en fusion avec tout ce qui est autour. Donc ça, c'est vraiment la non-dualité. Et ça, c'est un espace en fait qui est hyper intéressant à explorer et exploiter au plus possible, je pense, dans notre quotidien pour pouvoir nous permettre justement d'avoir davantage de recul sur nos process, sur nos émotions, sur nos systèmes de fonctionnement, sur nos croyances. Et c'est dans ces espaces-là qu'on se connecte à ce que certains pourraient appeler le champ quantique pour accéder à des informations qui sont déjà présentes, mais qui ne passaient pas les barrières de nos protecteurs et nos parts blessées émotionnelles, en fait. Et c'est en se connectant à cette non-dualité de conscience qu'on va pouvoir vraiment être dans quelque chose qui est fluide, qui est souple, qui est aligné. Et ensuite, on le passe par l'action, par le mouvement, parce qu'on reste des êtres de chair et de matière. Et pour ceux qui ont une inclinaison spirituelle, sans parler de religieux, mais de spirituel, on parle d'âme incarnée, d'essence et de mission de vie, etc. Et vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais incarné, c'est incarné, c'est dans la chair. Donc, je n'ai pas juste à être sur mon petit nuage à méditer et attendre que ça tombe. C'est vu que je suis en être de chair et de matière, j'ai besoin aussi d'appliquer du mouvement dans ma vie pour pouvoir atteindre ce que je suis destinée à atteindre. Je peux être destinée à
Merci.
l'atteindre, mais si je ne fais rien, je ne l'aurai pas.
Merci de dire ça, mais je te remercie tellement parce que je trouve, et moi je sais qu'il y a eu un moment donné où je suis passée par là, en fait j'étais tellement perchée, tu sais, genre rien ne m'atteignait, en mode oh bah je me sens comme ça, mais c'est pas grave, oh oui bah il m'est
Ah, le
arrivé
bel
ça, mais
évitement
voilà, c'est que
spirituel.
ça devait arriver, ça remonte justement dans les années 2020 à ce moment-là, tu vois. J'ai presque envie de citer Franck Lovett, m'a bien fait redescendre sur
Ah,
Terre,
il est super.
justement. Il est vraiment super pour
Est
ça,
top.
justement, pour les personnes qui sont dans l'évitement spirituel. Et donc, c'est vrai que, ben, en fait, finalement, parfois, tu sais, on est dans notre tête et on se pose tout un tas de questions de justement, c'est quoi ma mission de vie et comment je vis et comment je fais et comment j'aide dans mon business et comment je fais ci. Mais en fait, le mieux que tu puisses faire, c'est être dans l'action. Il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps, OK, pour te poser. Mais après, il faut que tu vives ta vie, il faut que tu testes de nouvelles expériences, que tu aies de nouvelles rencontres, que tu choisisses de suivre peut-être cette envie de partir à l'autre bout du monde. Enfin, il faut que tu vives dans le 3D, du coup.
Exactement. Dans le 3D
Ouais,
et pas dans la
voilà.
6D, la 42D ou je
Voilà.
ne sais quoi.
Oui, non, mais exactement. Là, enfin, tu sais, moi, je suis convaincue de l'utilité de la 3D parce que je pense sincèrement que si notre âme a choisi de venir expérimenter une vie terrestre, corporelle, avec un corps, bah c'est qu'on est là pour expérimenter ça, en fait. C'est pas pour qu'on passe, comme tu dis, dans la 6D ou dans la 7D. On aura assez le temps de le faire quand on sera plus là, quoi.
Exactement. C'est quand même très paradoxal qu'en tant qu'être humain incarné, être de matière et de chair, il y ait une propension de la population qui cherche à atteindre des états de ce qu'on va appeler en anglais l'enlightenment ou comment appeler ça en
L'illumination.
français, l'illumination, merci, qui vont chercher à atteindre voilà, cette illumination, ce calme intérieur immanent et permanent, qui vont chercher à éviter ou à contourner ou à dépasser les peurs, les doutes, etc. Et c'est la première chose que je dis à mes clientes en séance qui m'amènent ça, parce qu'elles sont beaucoup à m'amener ça, pas comme problématique, mais c'est moi qui le vois.
Ouais,
Et
bien
je leur
sûr.
dis, mais tu ne pourras jamais obtenir ce que tu souhaites, parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu veux ne plus ressentir de choses que tu juges négatives. Alors déjà, c'est une perception. C'est une perception parce qu'il y a des croyances autour de la souffrance, de c'est inconfortable, de l'effort. Mais ce qu'il faut faire, c'est justement accueillir et traverser par le corps, pas par j'accepte de traverser, non, 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 par le corps, accepter de ressentir dans un cadre sécurisant ce qui nous crée de l'inconfort. Et moi, c'est ce que je fais pour moi dans mes méditations matinales et ce que j'accompagne mes clientes à faire en séance quand c'est le sujet, c'est je vais les mettre dans un état inconfortable. Volontairement, dans un état, elle me dit là, je me sens en colère et je veux plus être en colère. Ok, bah connecte-toi à la colère. Ouais, mais je veux plus être en colère.
Exactement.
Connecte-toi à la colère. Et tu me
Justement.
dis Et bien souvent, en fait, on passe 3-4 minutes en état modifié de conscience connecté à la colère. On a des informations qui ressortent, soit par le corps, soit par des images, soit par des pensées. Et derrière, qu'est-ce qui arrive? De la tristesse ou de la honte. Ok? Donc, plus j'évite, plus ça va grossir. C'est un petit peu, j'essaie de mettre le bouchon sur ma bouteille de champagne qui est déjà entamée, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, le bouchon, il va péter. Donc ouais, ces notions d'évitement spirituel, de capacité de dissociation, très, 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 très bon là-dedans, c'est quand même un gros sujet, quoi.
Bah, c'est un gros... Ce sera l'objet peut-être d'un prochain podcast, écoute.
Carrément.
Mais ouais, juste pour rebondir là-dessus, et puis après, tranquillement, tu nous partageras un peu où est-ce que les auditrices peuvent te retrouver. Mais bah, tu vois, là, tout ce que tu es en train de dire, c'est exactement, je dirais, là, le point où j'en arrive de plus en plus, c'est que je pense que pendant très longtemps, tu sais, j'ai essayé de lutter en mode, ah oui, mais là, je ressens un manque de confiance, je ressens le syndrome de l'imposteur. Oh non, comment est-ce que je fais pour plus jamais ressentir ça? Mais en fait, c'est impossible, tu vois. Et là, je me rends compte que depuis que je prends juste le temps de me dire, ok, bah tu sais quoi? Tu sais, je pose la main sur mon corps, ici, mon plexus, là, je ferme
Plexus.
les yeux et je dis, ok, ben, j'accepte du coup d'avoir le syndrome de l'imposteur, ok, très bien. Et est-ce que ça va m'empêcher de vivre? Est-ce que ça va m'empêcher de mettre en place mes actions? Non, ok, bah, en fait, juste, je l'accepte, je prends le temps de l'intégrer, peut-être même de lui parler quand je ressens le besoin. Et puis, ok, je continue ma vie, en fait. Enfin, je sais qu'il sera toujours là et que de toute façon, enfin, il ne pourra jamais disparaître complètement, tu vois. Enfin, donc, je pense que
Ouais.
c'est important aussi de se rendre compte que, ben, ouais, on est là pour vivre une vie 3D. Donc, ben, ça passe par des émotions, des sentiments. Et ce n'est pas parce que c'est inconfortable qu'il faut essayer de mettre ça sous le tapis, en fait.
Carrément, bien au contraire, hein, on le disait tout à l'heure
Ouais.
sur la notion de dualité, c'est je ne peux pas avoir que des émotions confortables, puisque sinon ça veut dire que elles
Ouais.
perdraient en fait leur connotation de confortable.
Exactement.
Elles sont confortables parce qu'il y a de l'inconfort. Et en même temps, le confortable nous
Ouais.
maintient dans le je vais pas dire le figement, mais dans le non-mouvement. C'est
Ouais.
l'inconfortable qui nous permet de bouger. Donc quand moi on vient me dire en me disant quand on vient me voir en me disant ouais, je suis en colère parce que si, etc., etc. Ou je me sens vraiment triste. Attends, mais c'est génial parce que là, tu as une information qu'il y a quelque chose dans ton système qui n'est pas OK et
Ouais.
que donc, faut bouger. Donc,
Ouais.
c'est donc un message d'évolution, de
Ouais.
changement. C'est un acte
Ouais.
d'amour que ton corps est en train de te faire en t'envoyant cet inconfort. En fait, il dit, ouh, attends, j'ai
Ouais.
quelque chose à te dire parce que là, ça va pas. Parce que s'il ne le disait pas, ben, on resterait dans des situations comme ça.
Exactement.
Et qui sait ce qui se passerait, peut-être qu'on tomberait malade, etc., etc., tu vois. Donc, vraiment, il y a ça. Et puis, pour faire un pont sur ce que tu disais avec le syndrome de l'imposteur, qui est un vaste sujet aussi sur lequel je pourrais m'étendre pendant 3 heures, c'est que...
T'inquiète, on fera vraiment un prochain podcast.
Ça
On fera notre troisième podcast.
marche. Mais c'est vrai que syndrome de l'imposteur, ça dépend de ce qu'on met derrière. Pour moi, ça veut vraiment tout et rien dire, parce que quand on commence, j'ai eu des entrepreneurs, des clientes qui lançaient leur entreprise, où ça faisait genre 6 mois, 1 an, tu vois, qu'elles étaient lancées, elles n'avaient pas encore trop les
Ouais.
résultats qu'elles voulaient, pour plein de raisons diverses et variées. Elles disaient, oui, mais je viens parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Je dis, attends, non, t'as pas le syndrome de l'imposteur, en fait. Tu commences ton entreprise, donc oui, t'es pas encore totalement compétente, en fait. C'est normal, ça fait partie du process. C'est juste que tu n'as soit pas les compétences encore nécessaires, soit que y a encore des choses qui ne sont pas optimisées et qui
Ouais.
ne sont pas encore posées. Mais c'est normal.
C'est
On ne
normal.
commence pas une entreprise en se disant ouais, je suis trop forte, je suis trop bonne, machin. Non, non, c'est enfin, voilà. Vraiment, il doit y avoir des cas très, très particuliers
Ouais.
parce qu'on a déjà eu de l'expérience et monté d'autres entreprises avant. Mais quand on ne peut pas commencer quelque chose qu'on n'a jamais fait en se disant ouais, je suis trop forte, je suis trop à l'aise. Parce que là, du coup, on tombe dans une autre partie de soi qui s'exprime. Mais donc, du coup, c'est vraiment identifier, c'est quoi l'émotion que me fait ressentir le syndrome de l'imposteur? C'est de l'angoisse, c'est de la peur, c'est du doute, c'est de la honte, c'est, tu vois? Et
Ouais.
c'est ça qu'il faut aller chercher. Elle a quel âge, la partie qui
Ouais.
ressent ça? Qu'est-ce qu'elle veut te dire?
Ah, j'adore parce que ça fait bah, parfaitement le lien, je trouve, pour que tu puisses justement bah, nous dire comment est-ce que tu aides les femmes actuellement à reprendre leur place, comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver. Dis-nous tout.
Yes, trop cool. Alors bah aujourd'hui c'est assez simple. Il y a 3 façons de travailler avec moi pour le moment. La première c'est je propose une fois par mois un atelier qui est collectif. Ça s'appelle les constellations familiales pour ceux qui ont vu
Vous
la
les faire,
série Chemin de
absolument,
l'Olivier.
absolument.
Donc c'est un atelier collectif. On est entre 5 à 8, 9 personnes max.
Ouais.
Les dates sont sur mon site et là vous pouvez amener n'importe quel blocage, n'importe quelle problématique perso ou pro. Je n'arrive pas à trouver des clients, je veux apaiser la relation avec mon père, je suis dans la dépendance affective, je fais des angoisses nocturnes depuis 10 ans. Voilà, il y a vraiment tout qui est possible d'amener. Et on va aller travailler en collectif à la résolution de ça.
Ouais, c'est
La
trop bien.
deuxième façon de travailler avec moi, c'est en accompagnement individuel sur 4 mois, où là, on est vraiment one-one, rapprochés. Cette forme d'accompagnement-là, c'est pour les personnes qui veulent vraiment effectuer un suivi profond, pour les entrepreneurs qui veulent apprendre à se reconnecter à elles, à se déconditionner justement de tout ce dont on a parlé dans cet épisode, pour pouvoir créer une entreprise, mais du coup derrière aussi une vie libre, alignée, pleine de sens, mais qui leur correspond. Et la troisième façon de travailler avec moi, et c'est surtout pour ça que je trouve intéressant cet épisode de podcast-là, c'est que en courant mars, mi-mars, au printemps, je sors mon programme Archétype. C'est un programme qui est à destination des entrepreneurs qui se lancent et ou qui sont déjà lancés mais qui n'ont pas les résultats espérés dans leur entreprise. Et là-dedans, on ne va pas parler de client idéal, on ne va pas parler de vision, on ne va pas parler de stratégie de tunnel de vente. Non, on va aller déconditionner tous les systèmes de croyances transgénérationnels, sociétaux et autres dont on a parlé aujourd'hui là-dessus. Donc concrètement, on va bosser sur les archétypes de l'entrepreneur, incarner sa posture d'entrepreneur, l'archétype de la petite fille qui veut faire plaisir à ses parents, toujours être dans la perfection. On va parler de l'archétype de la perfection aussi, qui cause de la procrastination. On va parler de l'abondance, de la peur du manque, de l'argent, de la légitimité, bref, de toutes ces notions-là qui sont essentielles. Et ce programme est unique. Je ne connais à ce jour aucun programme qui propose ça. Ce n'est pas du tout du mindset. Ça va bien, bien, bien au-delà, avec du théorie, mais aussi du pratique, des exercices que vous aurez à vie. Vous pourrez utiliser à vie des choses accessibles pour vous permettre en fait de créer votre entreprise on your own terms, comme on dit. Et ouais, je veux vraiment que ce programme, ce soit la Bible de tous les entrepreneurs, et que pour moi, ça devrait être voilà, un passage quasi obligatoire de faire ça avant de se lancer, pour éviter en fait de perdre du temps et de perdre de l'argent dans des programmes bien plus chers. Qui ne fonctionneront pas parce que votre système de croyance, il n'aura pas été adressé, et ça n'aurait pas été adressé au niveau corporel. Donc ça sort au printemps.
Oh bien, mais j'adore, genre, le passage obligatoire à aller voir Manon avec son programme Archétype, justement, ou
Ah
avant là. J'adore. Franchement, écoutez, je vous mettrai, comme vous le savez, comme d'habitude, tous les liens pour retrouver Manon, pour retrouver son programme, son accompagnement, les constellations familiales. Comme d'habitude, je vous mets tout du coup en description. Allez connecter avec Manon parce qu'elle est vraiment formidable. J'y ai fait plusieurs constellations familiales avec elle. J'ai fait plusieurs séances one-on-one avec elle. Enfin, voilà. Et puis, je pense que vous avez pu voir à travers aussi ce podcast et le précédent. Je trouve ta personnalité, ta façon d'aborder les choses, tes perceptions. Enfin, voilà, je t'adore. Donc, déjà, merci d'être venu.
Merci
Merci
à
d'avoir
toi.
accepté. Merci d'être venu du coup pour ce deuxième épisode de podcast. Et merci pour toute la valeur que tu as apportée du coup dans cet épisode. Et ben, c'est là-dessus du coup qu'on va se laisser. Merci beaucoup. Et puis bah, merci à toutes les auditrices, les auditeurs qui étaient présents avec nous pour cet épisode du coup.
Merci infiniment, Prudence, pour ton invitation. J'étais ravie, et puis au plaisir de te retrouver, au plaisir de vous retrouver, vous qui nous écoutez.
Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si tu t'es senti inspiré, si tu as eu des déclics, si tu en ressors avec plus de conscience qu'à ton arrivée, je t'invite bien sûr à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et le partager autour de toi. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye!